Bonjour et bienvenue sur Gameblog.fr pour votre rendez-vous hebdomadaire avec les podcasts de la rédaction. Aujourd'hui, podcast 71 avec une thématique forcément japonisante. Il y a quelques jours, du 9 au 12 octobre, se tenait, vous le savez, hein, le Tokyo Game Show, le TGS 08, comme on l'a appelé dans nos colonnes. Et pour en parler, pour revenir un petit peu plus en profondeur sur les différents jeux qui ont marqué cet événement, qui intéressait fortement les gamers, puisqu'il s'agissait du dernier grand salon mondial du jeu vidéo pour l'année 2008, après un E3 fébrile, après une Games Convention qui n'avait pas fondamentalement marqué les esprits. Et ben est-ce que le TGS a redoré un petit peu le blason des annonces majeures du jeu vidéo? On va voir que pas forcément. Néanmoins, il y a pas mal de choses qui ont été montrées et on va pouvoir revenir là-dessus avec Julo, ici présent, Angel, Raan et deux invités exceptionnels, certains complètement exceptionnels, puis d'autres, c'est le retour. Caf est parmi nous. Ça va Caf?
Ouais,
je vous avais manqué, Caf.
C'était bien, mais je vous parlerai du soleil, tout ça. C'est fini maintenant.
Exactement. Il y a une personne qu'on a peu l'occasion d'entendre dans les podcasts, et pourtant il nous manque. Il va nous offrir un petit peu son langage fleuri. Il s'agit de Traz. Ça va bien, Traz?
Salut les mecs, ça va très bien, merci. Ouais.
Ravi de t'avoir parmi nous au sein de ces podcasts. Elle est belle, hein, la table à repasser. Hein.
Elle est magnifique. Ouais, franchement, elle m'a manqué.
Ah bah ça, je l'imagine bien. L'internet entier nous l'envie. Bon messieurs, puisqu'on est tous fin prêts pour débattre du TGS, déjà petite mention spéciale, hein, un grand merci une fois de plus, vous avez pu le voir sur gameblog.fr, à Fanny qui nous a offert des vidéos. C'est un peu une sorte de coulisse du TGS, c'est sa vision du TGS, un peu moins axée sur les jeux mais plus sur l'ambiance, sur le salon, l'occasion de découvrir un Tokyo qu'on connaît peut-être peu pour certains, et puis l'occasion de voir un petit peu à quel point ce salon est vraiment vivant, et ça faisait vraiment plaisir, et pas qu'avec des babes, mais avec plein de petites animations, des endroits pour les enfants pour jouer qui étaient vraiment très très sympathiques,
des sentai qui font des danses bizarres.
Exactement, en tout cas ça correspond exactement à ce que nous on essaye de vous offrir sur gameblog.fr. C'est aussi une autre vision du jeu vidéo, et pour une première en vidéo, on remercie une fois de plus Fanny qui nous l'a fait vraiment avec bonheur, et ça nous a fait plaisir de pouvoir travailler comme ça main dans la main. Fanny, hein, tu le sais, c'est quand tu veux. De nouveau, au sein de Gameblog.fr. Voilà.
Ah oui, bon. J'ai cru que tu tripais les couettes, moi.
Non, c'est, tout va
merci,
bien.
Merci, Fanny.
Alors, messieurs, ça y est, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Alors, on a listé sur chaque console des titres qui sont exclusifs. Et puis après, on va s'intéresser aussi aux titres multi, bien sûr. Et puis, sur les grandes déceptions, les grands absents du TGS, il y en a eu aussi pas mal. Mais on va commencer avec la Xbox 360, avec les titres qui lui étaient dédiés et qui étaient dévoilés ici, au Tokyo Game Show, et on va commencer avec Star Ocean 4, qui est une véritable exclusivité 3.6, qui...
En tout cas pour l'instant.
Pour l'instant, ouais, mais qui fait sensation pour les rôlistes qui aiment les aventures japonaises. Julo.
Bah oui, tout à fait, donc un grand RPG en prévision, on espère en tout cas, ce qui fait partie de toute une série finalement qui ont fait de la Xbox 360 la machine privilégiée pour les RPG sur console next-gen, donc voilà.
Ouais, Tales of Vesperia qui a très bien marché, qui a permis de booster les ventes de manière colossale de la 360 au Japon, en tout cas.
Et puis, il y avait eu aussi ce jeu peut-être un peu moins bon de Square Enix.
Infinite Undiscovery, voilà, oui, ça. La déception infinie, comme on l'a appelé sur Gameblog.
Voilà, tout à fait.
Avec un point d'interrogation, certes, mais enfin quand même.
Donc espérons que Star Ocean 4 soit
relève un petit peu le niveau. Voilà. On sait que justement, c'est développé par Treyarch.
Tout à fait, ouais.
Qui sont des grands savants du RPG d'habitude, mais c'est aussi les
qui
papas
des milliers de fans,
ouais, de Infinite Discovery, et c'était pas glorieux. Alors on a un vrai gap graphique, effectivement. Star Ocean 4, ça a l'air, en tout cas de tout ce qu'on a pu en voir, vraiment super beau.
Bah ouais, disons que ça fait plaisir de voir des RPG next gen, quoi.
Mais ça a l'air très classique quand même,
ça a l'air
dans le déroulement
quand même, ouais, faut pas...
On a du combat donc qui n'est pas vraiment du tour par tour, contrairement à ceux de Final Fantasy traditionnels. Mmh. On rentre, il y a de l'action, on dirige un personnage.
Toujours dans les Star Ocean. Ouais.
Ouais, ouais.
Et à côté de ça, il y a eu Last Remnant également.
Alors Last Remnant qui n'est pas, on reste sur 360, qui n'est pas une exclusivité à proprement parler, mais pour l'instant, la seule date annoncée, c'est sur 360. Il arrivera probablement, enfin même c'est sûr, plus tard sur PS3. Qu'est-ce qu'on peut en dire pour l'instant? Je crois qu'on a des visions un peu contrastées de ce jeu pour l'instant. Raan, d'ailleurs, on va commencer avec toi, puisque toi, ce jeu t'a un peu tapé dans l'œil.
Disons que le dernier trailer qu'ils ont diffusé à l'occasion du TGS, moi je l'ai trouvé plutôt sympa. Enfin, en tous les cas, on va dire que c'était un bon trailer, mais bon, ça reste un trailer évidemment. Même si les combats ont l'air un petit peu plus classiques, mais en tous les cas, ils ont Enfin, ça, en tous les cas, ça a l'air plus next-gen, en tous les cas, visuellement pour moi, que ce qu'on a vu pour l'instant. Quoi.
Peut-être
à côté, que ce soit chez Square ou d'autres développeurs de RPG. Quoi.
Peut-être une question de design aussi, parce qu'il faut se rappeler que cette annonce de Last Remnant sur les deux plateformes, avec c'est le moteur Unreal Engine,
c'est ça, ouais.
ça représente, disons, le premier jeu qui exprimait la volonté de Square de s'imposer à l'étranger. Bah, donc c'était annoncé avec une sortie mondiale sur les deux plateformes.
RPG et, for a world.
Voilà, for RPG the world. For the world, voilà. Mm-hmm. Et donc avec des personnages aussi à designer aussi bien pour le marché asiatique que le marché occidental. Donc ils ont essayé vraiment d'essayer de rallier tout le monde autour de ce projet, quoi.
Alors juste pour rappeler un petit peu le cœur du titre, alors bon, on a un scénario avec les Remnants qui seraient là depuis des millénaires. Bon,
des artefacts.
Des artefacts à retrouver. Bon, bien évidemment, Last Remnant, l'un des personnages serait le dernier. Enfin bon. Mais au-delà de ça, on a un cheminement qui a l'air assez articulé autour de l'action RPG, c'est-à-dire quête principale, mais un petit peu à la Star Ocean, des combats pas au tour par tour, mais assez dynamiques, qui ont l'air vraiment beaux, très riches en effets en tout cas. Mm. Mais alors moi justement, c'est là où je trouve que le moteur graphique est parfois un peu étrange pour ceux qui ont eu l'occasion de vraiment de voir les derniers trailers sur leur Xbox 360 par exemple, en téléchargeant vraiment en haute définition les trailers via le Xbox Live, je trouve les rendus de certaines ombres et enfin ça fait un peu étrange, c'est un peu froid, c'est, je sais pas, j'ai pas été vachement convaincu moi par le style général.
Bah c'est inhabituel aussi pour l'instant en tout cas d'utiliser ce moteur là pour faire ce type de jeu, donc peut-être que ça joue là-dessus. C'est un moteur qui est quand même prévu pour du jeu d'action à la base, la Gears quoi, qui est son ouais. plus gros représentant on va dire. Et c'est aussi peut-être la première fois que des développeurs japonais utilisent autant ce moteur, quoi. Donc ça peut peut-être rejouer, mais moi quelque part ça m'a pas choqué plus que ça, quoi.
C'est une question de design tout simplement. Mm-hmm. Comme on le disait, ils ont besoin de s'imposer aussi sur les autres marchés, donc il y a peut-être des choix moins japonisants qui plaisent moins tout simplement.
Ouais. Bon, écoutez, on verra. En tout cas, c'est clairement un RPG à suivre de près, puisque c'est avec Star Ocean 4 le lancement un petit peu d'une année fin 2008, début 2009 qui devrait être très importante pour Square Enix. En tout cas, puisqu'on parlera un petit peu plus tard dans ce podcast de Final Fantasy XIII, entre autres. Enfin, il y aura énormément de gros titres. Square Enix joue un peu sa santé financière sur un an, là, à peu près.
Mais ça fait longtemps qu'ils sont un petit peu... Square est une boîte un peu particulière au niveau financier. Hein.
Et puis il faut payer Final Fantasy XIII.
Ouais. Et Versus XIII, qui doivent coûter bien cher.
Alors, Microsoft doit payer une partie de la facture déjà, je pense.
Oui.
Tu crois que c'est ça le
deal ? Oui, pour avoir caché l'exclusivité PS3, je pense que ça ne s'est pas fait juste en se serrant une main. Hein.
Oh. Ah bon ?
Non, ça a brassé du bifton aussi.
Tu crois qu'il y a eu des faveurs sexuelles aussi ?
Je ne sais pas. Quelque part, je ne peux pas le savoir. C'est possible. Bon, messieurs, on continue avec des titres qui tournent vraiment sur Xbox 360, même si une fois de plus, Last Remnant tournera aussi sur PS3. Mais pour l'instant, il y a peu d'informations à son sujet. On continue avec Ninja Blade. Ninja Blade, est-ce que on en avait vu quelques images ? On vous en avait dévoilé premières images sur Gameblog.
Juste avant Tokyo Game Show.
Exactement.
Ouais.
On a pu en voir un petit peu plus. Ça a l'air de quoi, messieurs ? Julo.
C'est une pâle copie de Ninja Gaiden.
Ça respire l'originalité.
Voilà, exactement.
Ça respire quand tu le vois, tu te dis oh, un jeu avec un ninja, ça a jamais été fait, putain.
Qui saute d'un hélicoptère.
Ah, mais un truc, mais
c'est
trop
ça son,
nouveau,
son originalité, c'est les scènes en fait où il dévale un immeuble.
Voilà, où il marche.
C'est le truc qui le distingue d'un.
Repiquer à Naruto qui fait ça très bien sur des arbres. Mais moi je dis ça, je dis rien. Tout est dans le chakra. Tu veux que je
saute d'un hélicoptère, Snake l'avait déjà fait aussi.
Oui, il fait des ponts aussi.
Non, mais bon, sans aller jusqu'à chercher des références partout, c'est juste, voilà, c'est Ninja Gaiden quoi.
Au niveau du gameplay, je sais pas ce que ça va donner, hein, mais c'est vraiment, en tout cas, sur le rendu visuel, quand tu vois le trailer, tu fais, c'est le nouveau Ninja. Attends, c'est Ninja quoi déjà ? Enfin, tu vois, c'est juste, t'accroches pas, c'est très bizarre.
Ah, bah alors, justement, on n'accroche
pas
CAF.
Moche, hein.
Oui, c'est là-dessus sur lequel je veux revenir. On n'accroche pas parce que techniquement, c'est limité ou parce que c'est du déjà vu ?
Je trouve ça classe parce que visuellement, je le trouve pas moche, mais par contre, j'ai l'impression d'avoir déjà joué avant d'avoir vu le jeu, tu vois. C'est
Mais surtout que ça a l'air moins beau et moins bien que Ninja Gaiden.
Ouais, je suis assez d'accord.
Bah justement, Traz veut réagir visiblement sur.
Moi, je trouve que ça apporte absolument rien, honnêtement. Je m'attendais à mille fois mieux que ça. Et visiblement, les premiers commentaires qu'il y a eu par rapport à ce qui a été présenté sur place. C'est exactement ce que vous dites, c'est du Ninja Gaiden. sans en moins bien visiblement, quoi. Il y a aucune originalité.
Ça emballe pas les foules.
Pas, non, pas c'est un design Ninja très Gaiden, américain, tout ce que j'aime pas.
Cela dit, Ninja Gaiden 2 n'était pas un exemple d'originalité.
Non, c'est sûr.
Il ressemblait beaucoup au premier. Il avait toujours des bugs.
Ninja Gaiden, voilà.
Et un game design incroyablement simple, quoi. Cela dit, il excelle complètement
dans son genre. C'est pas besoin de limiter pour faire pire, quoi.
Qu'est-ce que vous attendriez d'un Ninja Blade justement pour qu'il se distingue un petit peu du lot ?
C'est une bonne question. Deux hélicoptères, dit Julo. Ouais. Non, je
crois.
Non, je pense. Au-delà de ça, c'est compliqué aujourd'hui de faire un jeu de ninja qui veut se démarquer. En
bah, déjà, changer le titre. Parce que ninja quelque chose, c'est bon, qu'on connaît. Je sais pas. Moi, je suis pas game designer, donc j'en sais rien. Mais je pense qu'il y a un million de choses à apporter à un jeu de ce type-là que de refaire ce qui a déjà été fait 10 fois. Quoi.
Angel ?
Enfin, bon, en même temps, je me dis que si on cherche l'originalité, c'est Ninja Blade. En fait, l'originalité, c'est plus général, quoi. C'est-à-dire, de toute façon, la plupart des jeux qui sont présentés à l'heure actuelle, c'est toujours un machin bis, un truc like. Franchement, Ninja Blade, ça me choque pas tant que ça, quoi. Tu vois, il y a plein d'autres jeux qu'on va voir, ce soir, qui sont des repompes d'autres trucs qui ont déjà cartonné, quoi.
Oui, il y a un truc sur lequel Ninja Blade pourrait être mieux qu'un Ninja Gaiden, par exemple, c'est, je sais pas, au niveau du scénario. Avoir un scénario, par exemple, ça pourrait être pas mal.
Ça, ce serait bien dans certains jeux vidéo next-gen d'être doté d'une histoire, voilà. Une vraie. Ça, ce serait effectivement une vraie avancée. Plus
parce que
niveau
du système de combat, il a quand même fort à faire pour ne serait-ce que égaler Ninja Gaiden. Mmh.
Tout à fait.
Donc,
en revanche, Julo. Peut-être aussi une piste avec le level design, quoi, tout simplement, hein, parce que c'était très très pauvre dans Ninja Gaiden, dans Ninja Gaiden 2 surtout.
D'accord, et là je vois Caf qui ouvre des grands yeux, il les écarquille.
Bah ouais, il y a un truc hyper important dont on n'a pas parlé, c'est qu'il faut qu'il y ait des nibards. Parce que Ninja Gaiden. Quoi.
Voilà. Je vous ai pas dit.
Mais alors attendez, parce que là, ça veut dire que vous êtes juste en train de demander à Ninja Gaiden.
Ah, mais
3.
Non, mais le mec, s'ils copient et qu'en plus ils enlèvent ça. Il...
En même temps,
désolé les gars, quoi. Ouais.
En même temps, je suis en train de me demander pourquoi on passe tant de temps à parler de ce jeu. Oui.
Parce qu'on était déçus, je crois.
Bon. Justement, Julo le dit à juste titre, Ninja Blade, je crois qu'on a fait à peu près le tour, et puis il a encore du temps avant de sortir, on aura l'occasion de revenir dessus. Pour l'instant, vous l'aurez compris, ça ne nous a pas enthousiasmé plus que ça. En revanche, il y a un titre, et ce sera le dernier concernant la Xbox 360 en exclusivité, qui a retenu notre attention, alors à juste titre ou pas, on va essayer de le voir maintenant. Il s'agit de Halo 3 Recon, qui donc est une sorte de... c'est un stand-alone en fait, hein, ce ne sera pas à télécharger, ça va vraiment être vendu, c'est séparé, ouais. Pas besoin d'avoir Halo 3 pour pouvoir y jouer. Mm-hmm. De quoi s'agit-il vraiment ? Je crois que c'est donc une préquelle, Raon.
Oui, en fait, ça raconte, c'est un entièrement nouveau personnage. Mm-hmm.
C'est pas le Master Chief.
Non, c'est pas le Master Chief, c'est un membre des unités de reconnaissance, en fait, mm-hmm. Des forces terrestres, dont j'ai oublié le nom, l'UNSC, je sais plus quoi. Voilà, donc en fait, c'est des événements, ça va décrire, c'est une campagne solo avant tout. Qui va décrire des événements qui ont mené à ce qu'on a pu voir dans Halo 3. Et il y aura aussi des éléments multi avec le jeu. A priori, d'après ce qu'on a pu voir au départ, mais ça restera à confirmer plus tard, ça a l'air d'être aussi légèrement différent en termes de gameplay, peut-être beaucoup plus orienté sur une approche un peu moins bourrin, quoi, un peu plus peut-être dans la furtivité ou un peu plus subtile.
Mais moi, je vais être très clair, je trouve le trailer à la fois très efficace, et j'ai l'impression qu'il, tout en gardant un peu la charte, la bible des Halo, les ennemis, le style, un peu la bande son, j'ai l'impression qu'effectivement c'est un peu une nouvelle voie, et cette voie m'intéresse vraiment. Et comme on sait, Bungie l'a annoncé une fois de plus que ce serait vraiment leur dernier projet Halo avant en tout cas un bon bout de temps, je me demande si c'est pas la résultante de plein d'idées qu'ils avaient mis de côté.
Et pour Halo, tu crois ?
Ouais, et que on va vraiment avoir droit à quelque chose de différent, d'un peu nouveau, et avec peut-être des vraies prises de risques. En sachant qu'il y a encore d'autres Halo qui sont prévus.
On l'espère, ouais, parce que c'est pour faire un Halo 3, 5, tu vois, ouais. ça pas beaucoup d'intérêt, quoi.
Julo,
t'as parlé du gameplay déjà, pardon, sur le côté furtivité, etc. Donc
ouais, c'est rien de garanti, mais ils ont l'air de s'orienter sur un truc plus subtil. Voilà, c'est.
Il y aura. Par contre, juste un petit truc que je voulais ajouter. Je sais pas si vous pensiez tous ici que ce titre-là, comme il y a eu quelques teasers un peu avant, allait sortir cette année-là.
Non, c'est 2009, ouais.
Moi, je pensais que justement, il allait sortir ce Noël. Mais en fait, non. La surprise, c'est quand même qu'il sort dans un an.
Non, mais c'est vrai, il a été annoncé. On pouvait s'attendre parce qu'en plus, Microsoft avait sous-entendu qu'à Noël, il y aurait une grosse annonce et un gros titre. Bon, effectivement, Excusez-moi, je m'étouffe. Effectivement, ce Halo 3 Recon n'arrivera qu'en 2009, a priori.
Dans la dernière trimestre 2009, a priori.
Ouais, hiver 2009. Ouais, automne, ouais. Donc, effectivement, c'est du teasing de chez teasing. À la fois, on est un petit peu habitué dans l'univers du jeu vidéo. Mais
ce qui prouve que ça peut être un très gros titre, en fait. Pas seulement juste une espèce d'add-on comme ça.
Mais non, mais de manière commerciale et de marketing, c'est habilement joué. Ça veut dire qu'on place à ce Noël 2008 un Gears of War 2 qui est en droite ligne pour être, je crois que tous les analystes sont d'accord là-dessus, le best-seller de Noël. Peut-être même toute console confondue.
En tous les cas, c'est
voilà.
Certainement garanti.
Et avoir déjà teasé sur le prochain gros FPS de la fin d'année, en tout cas sur console Microsoft, ce Halo 3 Recon.
C'est surtout une des rares annonces du TGS qui concerne 2009 dans pas mal de temps. Hein.
Et un jeu occidental, purement occidental. Oui. Parce que ça, c'était quand même, et je trouve que c'est aussi l'une des nouveautés de ce TGS, c'est que d'habitude, on était 100% japonais, et que pour la première fois, il y a eu un peu, on reviendra tout à l'heure avec certains autres titres, l'émergence de production occidentale qui arrive, Angel.
Non, je vais juste dire, je me suis dit exactement la même chose, avec Banjo-Kazooie, tout ça.
Ouais. Little Big Planet.
Ils ont profité.
Et que surtout, le public était vraiment intéressé, quoi.
Ouais.
C'était pas juste
un
stand comme ça avec
demander.
Des gens. Non,
à ceux qui ont joué, tu vois les Japonais.
Non, tu voyais les mecs, par exemple, Banjo. Le public était vraiment intéressé. En même temps,
alors qu'il a une gueule de con,
en même temps, ça se comprend par rapport au design. Finalement, le design est assez efficace, je trouve. Enfin, je pense pour plusieurs japonais.
Moi aussi, mais
bon, on reviendra là-dessus tout à l'heure. Hein, mais par exemple, l'annonce de Little Big Planet avec Sephiroth et Old Snake, c'est pas un hasard. Et effectivement, ça a fait beaucoup de buzz au Japon.
Ils vont faire un paquet des packs comme ça. Ils avaient déjà annoncé
avec Mickey.
Kratos aussi, je crois.
Puis un pack Disney qui devrait arriver aussi. Enfin bon, il y a beaucoup de choses, mais on n'est pas encore sur PS3 d'ailleurs, on y arrive à peu près. Je crois qu'on a fait le tour concernant la Xbox 360.
Tekken 6.
En tout cas, Xbox 360 en termes d'exclusivité. Non, mais justement, c'est pour ça que je le précise.
D'accord.
On va revenir sur le multi tout à l'heure parce qu'effectivement, il y a eu des grosses annonces et Tekken 6 qui devient multi, c'est effectivement très important. Ça n'a pas les mêmes retombées que Final Fantasy 13 qui avait basculé à l'E3, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est quasiment à chaque salon. Chaque salon, il y a de l'exclu PS3 qui fout le camp. Hein, donc c'était quand même un peu inquiétant. On parle justement de la PS3, ça y est, on y arrive de plein pied. Alors on va glisser assez vite, on l'évoquait là, Little Big Planet qui était présent au salon du TGS, donc à Tokyo. À la fois on a envie de se dire que c'est tout à fait normal et logique, c'est des petits personnages qui devraient plaire et emballer le public japonais habitué à des petits personnages cute quoi.
Il sort bientôt aussi, donc ça reste quand même un salon consumer, faut aussi... Faut rappeler à tout le monde que c'est Noël, qu'il faut acheter des jeux, que c'est pas la crise du tout. Donc bon...
D'ailleurs, c'est intéressant, et je le place juste maintenant, de se rendre compte à quel point justement la fréquentation du TGS de cette année n'a pas fléchi, alors qu'on aurait pu craindre le pire, puisqu'on rappelle que donc, ça se déroule sur 4 jours, du 9 au 12 octobre, que les deux premiers jours sont dédiés exclusivement aux journalistes, à la presse, aux professionnels, tandis que les deux jours suivants sont ouverts au grand public. Et que les deux premiers jours, le salon était assez vide. On a eu une sorte de désamour, des aveux de la presse internationale qui s'est pas massée en bloc. Et du coup, heureusement, en revanche, le grand public a répondu plus que présent. On avait des chiffres sur la troisième journée, plus de 7 000, quasiment 10 000 personnes supplémentaires par rapport aux chiffres de l'année dernière. En grand public, ça veut dire qu'en tout cas, le jeu vidéo peut-être un peu brinque-balloté au Japon, mais finalement, les joueurs ont répondu présent, hein, CAF.
J'ai lu un truc super intéressant d'un analyste qui analyse vachement, qui disait justement...
Julien
c'est non, mais tu sais, habitué, on les vannes. Donc...
Oui. Écoute, je suis habitué, t'inquiète.
Toi aussi. Mais justement, qui disait que le jeu vidéo avait peut-être une chance de s'en tirer par rapport à plein de trucs consumeurs qui allaient évidemment être les premiers à être coupés dans les budgets, que c'était une valeur refuge en temps de crise, justement, pour s'évader, ne pas y penser... Et jouer tout bêtement, tu vois. C'est ça ou la drogue, donc non, continue
très
le
bien.
Jeu vidéo.
Oh bah oui, je préfère complètement. Ok, donc le TGS qui a plutôt bien marché, et donc effectivement, on revient sur PS3 et Little Big Planet, c'était l'apparition, on l'évoquait très rapidement, ils ont fait un petit peu de buzz avec donc Sephiroth donc de Final Fantasy 7 qui arrive et qui sera intégré dans le jeu. Vous avez une news sur Gameblog, vous pouvez le voir en vidéo, c'est assez sympa. Il y a aussi Old Snake qui arrive, alors c'est complètement délire, hein. C'est les petits personnages, les Sackboy, comme on appelle ça, les petits personnages de chiffon là, qui sont plutôt bien modélisés. Sinon, pas énormément d'annonces concernant Little Big Planet, hein. Soit pas salon après salon, le buzz est en train de monter en fait.
Tout a déjà été dit, je pense, en fait, hein, tout simplement. Il faut juste attendre la sortie. Maintenant, on sait tout. Hein, il n'y aura pas de.
Comment vous le sentez
ça? C'est le 22 octobre. Hein, donc.
Ouais, 22 octobre en Europe sur PS3.
Non, je crois que c'est le 24, moi.
Non,
c'est le
22. Il a bougé un tout petit peu.
Il a bougé un peu.
Justement, on revient rapidement là-dessus. C'est un peu hors sujet, mais quand même, ça intéresse pas mal de personnes sur Gameblog.fr. Comment vous le sentez? On avait déjà parlé dans d'autres podcasts un petit peu de la communication de Sony. On trouvait qu'il tardait à prendre le pas et à se déclencher sur Little Big Planet. Aujourd'hui, on voit qu'il y a un véritable effort là, depuis 2 mois qu'il a entrepris. Ça va porter ses fruits à votre avis? Est-ce que vous sentez un vrai engouement du public autour de Little Big Planet?
Ben, je ne sais pas si on devait s'y fier par rapport aux pubs. Je ne sais pas. Et peut-être qu'ils auraient dû engager une espèce de pré-campagne télévisée, peut-être. Hein, tu vois, on est quand même à quelques semaines à peine de la sortie.
Mais ils peuvent demander à Benjamin Castaldi, visiblement.
C'est vrai.
il aime bien Sony.
Ben bon, je ne suis pas convaincu pour l'instant. Mais après, le jeu lui-même, on parle pas de ça. Hein, on parle pas de la qualité du jeu, c'est juste de la com. Hein. Mm-hmm. Mais bon.
Non, moi je pense qu'il marchera. Trace. Il marchera de toute façon. Hein. Quasi certitude. Tout le monde en parle depuis je ne sais combien de temps. Franchement, c'est le jeu de la PS3 cette fin d'année. Quoi. Mmh. C'est évident.
Bah, pour Sony, en tous les cas, c'est sûr. Ouais.
Moi, je pense que sur
Angel.
Enfin, tu vas dire. C'est pas pour déconner en plus. Hein. Sur Wii, je pense qu'il ferait vraiment un malheur.
Mais
ce serait un million seller, ouais. Ultra million seller. Mais que finalement, sur ce PS3, il va juste se vendre normalement.
Mais
normalement plus. Quoi.
Oui, c'est ça. Voilà. Moi je suis assez d'accord avec ce que dit Angel, hein. Je trouve que c'est Nintendo aurait excellé avec de la com en nous montrant des familles et des enfants avec leurs parents en train de se faire leurs petits personnages et ça aurait été trop mignon. Et aujourd'hui Sony qui fait ce qu'il peut, hein, mais je trouve la com un peu moins efficace et très proche des gamers. C'est-à-dire que les gamers, je crois, sont vraiment au courant de ce qu'est Little Big Planet et l'attendent vraiment. Mais j'ai pas l'impression que ça frémisse plus que ça au sein du grand public. Hein.
C'est-à-dire que si moi j'étais une ménagère de moins de 50 ans ou un petit enfant, c'est-à-dire créer des niveaux, des répliques de Shadow of the Colossus, tu vois, ou machin de Mario ou un Tetris. Tu vois, enfin, la prise de gueule de la création de niveau, si tu veux me dire, je vais passer 3 heures dessus, ça m'attirerait pas plus que ça. Mais
c'est justement à Sony de trouver un moyen
exactement,
d'expliquer ça et de tenter les gens pour se lancer.
Et Sony ne communique pas, je trouve, sur le côté fun immédiat que peut avoir le jeu.
C'est
4 jeux.
Ah bah oui.
Et sur le côté, on peut jouer à 4 et puis on s'amuse tout de suite, puis c'est trop mignon et machin. Ouais. Bon, bah on va voir, il en reste encore quelques jours désormais pour agir massivement, mais ça m'étonnerait pas qu'on ait quand même des grosses campagnes en télé d'ici quelques jours, quelques heures. Mais on s'éloigne un petit peu néanmoins du sujet principal, et j'aimerais revenir sur la PlayStation 3 avec des exclusivités présentées au TGS, avec un titre que nous on attend ici particulièrement, mais je vais être très clair, qui commence à nous faire un petit peu peur. Il s'agit de White Knight Story, l'un des tout premiers RPG qui avait été montré, RPG de Level 5, il y a maintenant bien plus d'un an. Julo, je me rappelle, on l'avait vu ensemble, on l'avait découvert les premiers...
C'était le lancement de Gameblog.
Exactement, on avait vraiment kiffé. Sauf que le jeu là, sort fin décembre au Japon, et qui n'était pas jouable, présenté uniquement en petite conférence, etc.
Et en trailer sur le
stand. Et en trailer, et c'était pas particulièrement impressionnant. On sait pas trop ce qu'il en est de ce titre finalement, Julo. Bah,
c'était très impressionnant à l'époque. Maintenant, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts. Et c'est vrai qu'il est. C'est un projet qui nous botte toujours parce qu'il est... Il est original, parce qu'il a un design intéressant, etc.
On rappelle un petit peu le concept justement, Julo ? Avec ces méga ces chevaliers qui peuvent se transformer en une espèce de méga robot, ça rappelle un petit peu les Sentai, etc. Et on se bat. On devient gigantesque.
Ouais, ils avaient exploité un peu le même filon dans Blue Dragon, on se souvient
oui,
aussi,
c'est
avec les grands personnages derrière les petits. Et puis non, mais ça a l'air d'être ouvert, un peu plus, un peu moins classique qu'un RPG japonais traditionnel, quoi. Donc une thématique héroïque fantasy que j'aime bien aussi.
Avec pas mal de paramétrage aussi, de personnalisation de ses héros, ce qui n'est pas très courant chez les Japonais, qui d'habitude donnent un héros et puis point barre, on n'en bouge pas.
C'est clairement pas un RPG japonais typique, quoi.
Non, c'est ça.
Mais donc, grosse frustration pardon, de ne pas le voir.
Puis inquiétude surtout, parce que si c'était un jeu extraordinaire, pourquoi pas le montrer, c'est dévoiler ça. Plus, quoi.
Donc, un gros point d'interrogation sur un projet qui nous tenait à cœur. Quoi.
Voilà. Donc, et puis, toujours pas de date européenne non plus. Hein, donc, a priori, il va falloir attendre un petit peu longtemps pour découvrir et savourer du bon ou, enfin bon, on sait pas trop, RPG en tout cas sur PlayStation 3. Vous l'avez vu, hein, malheureusement, on peut pas vous en dire beaucoup plus parce qu'on rêverait de pouvoir le faire, mais on en a pas appris beaucoup plus. Ça reste encore, je rappelle, hein, à quoi 2 mois même pas de sa sortie, assez énigmatique, gros point d'interrogation sur White Knight Story qui pourtant fait partie des, a priori, blockbusters de la PS3. Yakuza 3. Yakuza 3, nouvelle exclusivité PlayStation 3. On en parle, Julo. Les deux premiers épisodes avaient été plutôt bons, hein, donc on attend forcément celui-là.
Ouais, le deuxième bien meilleur que le premier encore. Donc il faut rappeler juste qu'il y a eu un Yakuza qu'on appelait Yakuza 3, mm-hmm. qui est en fait le Yakuza Kenzan, qui n'est pas encore sorti chez nous, qui était un épisode à part qui se passait dans le Japon féodal, etc. Et que du coup, derrière, ils ont annoncé ce Yakuza 3. Là, qui est le vrai Yakuza 3 et qui se déroule à nouveau donc, à notre époque, à Tokyo, à Tokyo et également à Okinawa d'ailleurs, mm-hmm. et puis toujours avec ces Yakuza, ces bastons, ces cinématiques très classe.
Ah, très classe, avec un travail sur les animations de visage, impressionnant.
Hein. J'avoue que j'ai jamais joué à Yakuza, mais j'étais frappé par ça, c'est magnifiquement bien fait. C'est hallucinant. C'est vraiment magnifique, quoi.
Ouais, dès le premier, c'était très cinématographique. D'ailleurs, ça faisait penser à Shenmue un peu. Au départ, on disait que c'était un peu le...
C'est, la force de cet homme est incroyable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un podcast, on est au 71e. Oui, je crois que tu l'as, même dans PES et FIFA, je crois que tu as réussi à un moment à sortir Shenmue. Tu es énorme.
Je ne fais même pas exprès.
Julo, c'est pour ça que je t'aime.
Bah, dis-toi que Yakuza 3, ça aurait pu être Shenmue, voilà.
Ouais, non, mais je sais pas, ça me fait vraiment penser à Shenmue.
Bah, justement, ça m'intéresserait un peu d'avoir ta vision, Traz, parce que toi, tu connaissais moins les premiers, et visiblement, ça t'a touché. Qu'est-ce qui t'a attiré dans ce titre ?
Bah, en fait, c'est vraiment le design, quoi. C'est super réaliste, quoi. Enfin, moi, j'adore. Ouais. C'est vraiment beau, c'est magnifique.
C'est réaliste, c'est adulte, c'est violent.
Ça bouge super bien, voilà, c'est l'ambiance. Franchement, il me donne vraiment envie de le faire, quoi. Mais carrément.
Bah, Yakuza 3, en tout cas, vous l'aurez compris, ça nous excite pas mal. Du coup, on va le suivre. Au plus près, Yakuza 3.
Hein. Après, pour la sortie européenne, je crois qu'ils n'ont rien annoncé encore. Hein.
Rien
parce
annoncé.
Que le 2 est sorti il y a très très peu de temps sur PS2.
Temps, le 2 vient de sortir.
Bien longtemps après la sortie japonaise.
Ils ont Kenzan aussi à sortir entre temps. Ouais.
Voilà. Yakuza 3, c'est un jeu Sega, on est d'accord.
Oui.
C'est ça. Moi, je suis assez confiant quand même, parce que Sega est en train de travailler de plus en plus, justement, un peu à l'image de Capcom, pour avoir des sorties un peu rapprochées. Et surtout, c'est une série qui aujourd'hui a gagné en maturité et commence à se vendre plutôt pas mal. Donc,
il y a aussi du boulot de localisation.
Oui, c'est ce que j'allais dire, il y a beaucoup de dialogues et tout ça. Donc, je pense qu'ils vont mettre un petit peu de temps avant de le sortir ici.
Bon, on croise les doigts, mais en tout cas, Yakuza 3, un titre qu'on suivra pas mal. Alors, est-ce qu'il en sera de même avec Quantum Theory ? Theory, j'ai envie de dire. Et là, je vois une main se lever, il s'agit d'Angel, hop, un micro qui lui arrive. Quantum Theory. Quel est ton avis ?
C'est l'archétype même du jeu dont je parlais tout à l'heure, tu vois, qui reprend vraiment tout ce qui marche, mais un peu n'importe comment. Tu vois, comme disait Julo dans sa news, tu vois, il disait il y a du Gears of War et il y a du Devil May Cry. Quoi. Les mecs, ils se sont dit bon, alors, qu'est-ce qu'il y a vendu l'année dernière, les gars ? Alors, il y a Gears of War, là, ça va faire un carton, et il y a Devil May Cry. Et au fait, et sinon, la coop en ce moment, c'est à la mode, on pourra aussi faire ça. Ouais.
Donc, le grand patchwork, quoi.
Et puis, paf, les mecs, ils pondent un jeu. Et je suis sûr qu'il va Non, mais le pire, c'est qu'il va probablement se vendre à son niveau, tu vois.
Peut-être même qu'il sera pas mal et tout.
Mais c'est ce que j'allais dire, parce que parfois, alors c'est peut-être pas très inspiré de reprendre
c'est
les bonnes idées,
pas
mais si c'est bien traité, ça peut être bon.
En tout cas, je trouve que les persos et tout, c'est un jeu qui m'enchante pas plus que ça. C'est vrai que c'est pas une suite, mais quelque part, c'est du déjà vu à fond les ballons.
Généralement, je trouve les jeux. J'ai déjà parlé 1000 fois de la crise de l'originalité, mais là. Là, on atteint des sommets carrément. Franchement, c'est vraiment.
Même le titre.
Le brainstorming, il devait être fantastique.
J'adore m'imaginer les brainstorming quand je vois des.
Mais le brainstorming, il devait être fantastique.
Non, mais Traz a complètement raison parce que le mot quantum, je crois qu'on ne l'a pas entendu pendant 600 ans d'une vie. Et puis soudainement, on va l'entendre beaucoup.
Et là, par hasard, après Quantum of Solace, Quantum Theory, allez, je suis sûr qu'ils ont changé.
Ils
ont changé il y a 2 mois.
Et c'est quoi le gros film qui va sortir là ? James Bond. Bon, on met ça dans le titre, c'est réglé. Mais bon, je peux quand même pas mettre un mec.
Chaos Theory, Quantum Solace, hop, le boum.
Mais je suis persuadé qu'il y aura un scénario super chiadé. Ça, je peux aussi vous l'avancer.
Ouais.
Je suis intimement persuadé.
Non, mais on a vu qu'un trailer, quoi.
Pour l'instant,
c'est pas gentil d'être méchant, j'allais dire.
Elle est pas mal.
C'est pas mal celle-là.
À noter, à rajouter
dans
la liste des petites perles de Gameblog.
Bref, on verra quoi. Mais c'est vrai que c'est pas très.
On verra, mais néanmoins, c'est.
Moi j'ai déjà vu.
C'est une nouvelle exclusivité pour la PS3. On est quand même dans un moment où c'est pas évident pour la PS3, soyons honnêtes. Elle perd beaucoup de ses exclusivités. Elle en gagne aussi quelques-unes. Alors, ça n'a pas le brillant, la patine d'un Tekken ou d'un Final Fantasy. Mais enfin bon, ça a le mérite d'exister. Puis on va suivre ça pour voir ce qu'il en est vraiment. D'ailleurs, on va bientôt arriver sur les multis avec du Resident Evil 5, du Prince of Persia, du Tekken, du Bayonetta. Et là, je crois qu'on aura pas mal de choses à dire. Mais bon, pour l'instant, on va se concentrer sur la dernière console, la Wii, qui officiellement, entre guillemets, n'était pas présente, puisqu'on le rappelle, Nintendo ne participe pas au TGS, historiquement. Mais néanmoins, il y avait quand même quelques jeux qui étaient présentés, dont certains en totale exclusivité. Je pense par exemple à No More Heroes 2, le premier, t'avais fait vraiment kiffer, Julo. Est-ce que le second t'attire tout autant?
Oui, de base, après il faut dire que c'était plus un teaser qu'un trailer, et en fait c'était surtout une annonce surprise, parce que No More Heroes, c'est un très bon jeu qui a eu un succès d'estime un peu partout dans le monde.
Oui, parce qu'en termes de vente, c'est pas été folichon.
C'est pas forcément ça, et puis les jeux de Suda, c'est toujours un peu des trucs un peu barrés, etc. Mmh. Mais bon, et là ils annoncent une suite, surprise quoi, et moi je suis agréablement surpris, je suis content, j'attends de voir, parce que là on a vu, comme je te disais, qu'un teaser.
Alors justement, j'inverse un peu ma question, qu'est-ce que tu penses qui manquait à No More Heroes premier du nom et qui pourrait arriver dans le 2, qui toi en tout cas, qu'est-ce que tu attendrais de ce titre?
Oh, écoute,
j'aime te prendre au dépourvu.
Ouais, tu me prends au dépourvu parce que c'est vrai que, comment dire, c'est un coup de cœur pour moi ce jeu, je l'ai trouvé excellent. Alors bon, j'ai envie de te dire une meilleure réalisation, mais je sais pas s'ils ont pas topé déjà avec le premier sur Wii, quoi, parce que c'est vrai que ça fonctionne comme un GTA-like, avec une ville plutôt ouverte, etc. Bref, c'était très moche, quoi.
C'était un coup de cœur. Bon, bref.
Non, attention, je parle pas vraiment d'esthétique. je te parle vraiment de technique, là. C'est-à-dire que, bon, bah, quand tu circules en moto dans la ville, ça craignait, quoi. C'était pas.
Tu sais, une fille trop chum et bien habillée, ça reste une fille chum.
Ouais, si tu veux. Mais j'aime bien cette fille chum.
Mais là, ce qu'il veut dire justement, c'est que c'est une très belle fille mal habillée.
Ouais, voilà, c'est l'inverse.
Et elle reste belle.
Ah ben non, elle en a d'autant plus de classe.
Ok.
Julo, je vais c'est à toi.
Non, mais voilà, mais écoute, c'était mon coup de cœur. Il y a effectivement un problème technique dans ce jeu, mais ça dépend de la Wii, pas vraiment du projet en lui-même.
Pourquoi il s'acharne sur la Wii alors?
Bah, il s'acharne sur la Wii, je sais pas, peut-être parce que c'est une machine qui marche plutôt pas mal.
Oui, mais visiblement, il en vend pas tant.
Non, parce qu'à la base, il avait ce projet avec son. Tu sais, il a un sabre laser, machin, etc. Alors, certes, c'est pas ultra exploité, etc. Mais enfin, bon, ça a été fait comme ça sur Wii.
Ça sera avec le Wii Motion Plus, peut-être.
Ah, bah oui, ça c'est à peu près certain. Effectivement, ça apportera peut-être.
Ouais, alors peut-être, effectivement, ça va tout changer, une gestion de la Wiimote un peu plus spécifique pour le sabre laser. Parce que là, finalement, tu pompais sur un bouton et puis pour le dernier slash, tu donnais un coup, quelle que soit la façon dont tu le donnes, etc. Enfin, si tu pouvais le donner de différentes manières. Enfin, c'était pas très sophistiqué, quoi. Alors peut-être.
Bon, à la fois, on va
peut-être des nouveautés avec la Wiimote, mais en même temps, il y a eu des utilisations tellement géniales. Notamment le téléphone du personnage qui sonne, tu t'y attends absolument pas. En fait, tu dois mettre la Wiimote contre ton oreille pour l'entendre. Parce que
c'est pas mal, ça.
Enfin, le jeu est bourré de trucs comme ça, parce que Suda, c'est un mec ultra inventif qui cherche tout le temps l'originalité, à surprendre le joueur et tout.
En plus, Suda, c'est quelqu'un qui très clairement a une petite passion pour Nintendo. Hein, Killer 7, c'était sur GameCube. Là, ça arrivait sur Wii. Et puis, je crois qu'effectivement, tu as raison, il aime pouvoir être un peu créatif. Et c'est vrai que la Wii permet, certes, pas des graphismes incroyables, mais peut-être une approche différente du gameplay. On sait d'ailleurs, et ça c'est pour rebondir, Suda, qui lors de ce Tokyo Game Show a dévoilé en interview qu'effectivement, oui, peut-être, mais qu'il pouvait pas trop en parler, qu'effectivement il travaillait un peu avec Kojima en ce moment. Enfin bon, le fameux projet S, qui pourrait être le retour de Snatcher, dont vous avez parlé sur Gameblog il y a maintenant des mois et des mois. A priori, rien n'est annoncé, rien n'est officialisé. Bon, enfin, ça a l'air plutôt être en bon chemin.
Et ils sont pas que tous les deux, il y a Mikami avec eux, non,
non, c'est vraiment tous les deux.
Ah, il y a Bill Gates aussi.
Non, parce qu'ils avaient fait le truc Snake versus Zombie,
c'est ça,
tous les
trois. Tout à fait. Mais ça, c'était un petit colloque sympa. Ouais, mais en tout cas, Suda et Kojima qui bosseraient ensemble, ça a l'air d'être à peu près officieusement officialisé. On va dire.
Un nouveau concept présenté par Julien.
Exactement.
En tout cas, tous les deux qui
bossent l'officiel
ensemble,
officieux. Voilà.
Ça fait envie, quoi.
Ça serait une équipe bien soudée de base.
Un réseau. Quelle
classe, alors vous l'avez peut-être pas entendu. Je demande à Trace de la répéter, s'il vous plaît.
Non, je disais, ça serait une équipe bien soudée, c'est sûr.
C'est exact. Bon, on continue avec la Wii.
Je te mettrai une petite cymbale.
Oui, oui. On continue avec la Wii, avec un titre, mais alors là, monstrueux, en tout cas attendu avec ferveur au Japon. Il s'agit de Monster Hunter 3. Lorsque le jeu a été annoncé sur Wii, instantanément, dans les tops de Famitsu des jeux.
L'action de Nintendo a flambé.
Ils n'arrêtent pas de Capcom, surtout, parce que Nintendo et Sony, ils perdent grave depuis malgré les bonnes ventes.
Je m'intéresse pas trop à la bourse, à vrai dire.
Ouais, putain, en ce moment, tu peux pas faire autrement. Monster Hunter 3, c'est le best-seller de l'année dernière sur PSP. C'est plus de 2 millions d'exemplaires vendus sur PSP. C'est juste le jeu qui a écrasé toute la concurrence, Pokémon compris.
Mais Monster Hunter, c'est juste le jeu magique. Il a littéralement sorti la PSP de l'eau. Quoi.
Ouais, complètement. Puisqu'on rappelle qu'aujourd'hui, la PSP en 2008 au Japon devrait finir l'année en tête des meilleures ventes de toutes consoles confondues. Hein, devant la DS,
d'ailleurs. C'est grâce à lui, notamment. À d'autres aussi, hein, mais Monster Hunter c'était vraiment le déclencheur. Et c'est un jeu qui fonctionne un peu comme Phantasy Star Online, hein, en gros, sauf que notamment sur PSP il est pas online, et donc les gens ils font des Monster Hunter Party au Japon, ils se réunissent
en Wi-Fi, ouais.
Voilà, ils jouent en réseau comme ça. De base, il devait sortir a priori sur PlayStation 3, et c'est vrai que quand ça avait été annoncé, c'était fracassant. Quoi.
Mais c'était fracassant, ça veut dire instantanément numéro 1 des top des jeux les plus attendus. Là, on l'a vu vraiment au TGS. La foule qui se massait pour voir le trailer, c'était incroyable. Sur le stand Capcom, qui, on va y revenir dans quelques instants, a été un stand, je pense, le plus regardé de tout le salon, hein, très clairement, avec d'autres titres, hein, mais on va revenir dessus dans quelques instants. Mais Monster Hunter 3, c'est la grosse cote au Japon. Hein. On s'en rend pas bien compte, nous, ici, en France, en Europe, mais alors, au secours, le succès.
Ouais,
le
phénomène n'a pas trop pris de la même manière.
Pourtant, c'est un jeu qu'effectivement, on attendait à l'époque sur PlayStation 2.
Mais c'est
ça
assez
a l'air
original,
sympa, univers un peu jurassique.
Et puis là, cette version Wii, franchement, elle s'annonce vraiment pas mal. Il enfin, y a des grands environnements.
C'est plutôt beau techniquement.
C'est plutôt joli.
Et il y a on parlait de Wiimote de manière de l'utiliser un peu créative. Là, apparemment, c'est plutôt le cas aussi. Enfin,
ouais,
ça a l'air bien pensé.
Fort heureusement pour certains, notamment des fans qui s'inquiètent, il faut préciser que le jeu sera compatible quand même avec le paddle classique. Mm-hmm. Voilà, pour pouvoir jouer comme normalement. Quoi,
à l'ancienne.
Et voilà, on a fait le tour.
Ah bah écoute, moi je buvais tes paroles. Hein, je buvais tes paroles. Donc,
tu t'es endormi sur ce
jeu. Non, non. Donc Monster Hunter 3, effectivement, grosse cote de la Wii. Et donc fatalement, et bah, même si Nintendo était absent, bah, Nintendo a fait parler de soi avec encore un jeu fort attendu. Alors, avant de conclure avec la Wii, on va parler d'un titre complètement barré, une sorte d'ovni, un truc qui sort un peu de nulle part, et pourtant aussi, c'est un grand nom du jeu vidéo qui en est le papa. Il s'agit du père de Sonic, Julo.
Yuji Naka.
Yuji Naka. Il s'agit de Let's Tap, le jeu qui était annoncé comme le jeu sur lequel même les pingouins pouvaient y jouer. C'est-à-dire qu'en gros, on n'est même pas besoin d'avoir des mains, puisque les manchots, comme vous le savez, ça n'a pas de mains. Donc, Let's Tap arrivait, et pour la première fois, il était dévoilé jouable au Tokyo Game Show. Qui veut me résumer un petit peu son concept ? C'est n'importe quoi. Je crois que Traz, toi, tu as bien regardé.
Bah, je ne sais pas s'il y a vraiment un concept. Hein. Je crois qu'ils utilisent la Wiimote. On va dire dans une nouvelle façon de faire, quoi. C'est-à-dire que vous posez la Wiimote sur une table ou une table à repasser, par exemple, et puis vous faites du bruit à côté avec vos mains, tout simplement. Vous tapotez plus ou moins fort, et selon que vous tapez plus ou moins fort, eh bien, vous faites bouger des éléments à l'écran, soit un petit personnage, soit d'autres choses. Donc, il peut par exemple sauter une barrière si vous tapez plus fort, il peut courir vite si vous tapotez très très rapidement avec vos doigts, et voilà, ainsi de suite.
Ouais, ça veut dire qu'en fait, ouais, on n'utilise pas du tout sa Wiimote comme d'habitude, c'est-à-dire qu'on ne la tient pas du tout dans la main,
on
la pose, ça réagit en fait, c'est quoi ? C'est
vibrations,
les vibrations
pense,
en fait,
moi,
voilà, ouais. Qu'on tape sur la table et du coup ça fait bouger légèrement, et les capteurs doivent être poussés au maximum de leur sensibilité et réagir en l'occurrence. Alors, c'est très dépouillé, c'est très sobre en termes graphiques. Moi, ça me rappelle un peu Rez dans l'univers de certaines missions, même, donc c'est découpé en missions, mais il y a du Rez parfois, mais alors il y a des trucs complètement n'importe quoi dans d'autres, hein, parce que ça, il y a des ballons, il y a des courses, il y a des univers un peu à la Tron aussi. Enfin, ça part dans tous les sens.
À la Tron.
Tu dis Tron, toi.
Tu dis Ayrton Senna aussi.
Eh oh, tu
je me suis permis de pas répondre. Donc ouais, c'est complètement barré, et j'ai envie de dire, mais qu'est-ce donc, Monsieur Naka, que ce jeu qui a l'air chelou ?
Et le prix de la coke a baissé au Japon ?
Ah, je sais pas, mais alors en tout cas, c'est pas la crise à ce niveau-là.
Oh mon Dieu. Oh la vache.
Ouais, Angel.
Non, mais en même temps, tu vois, les mecs, ils essaient des choses nouvelles. Quoi.
Oui, c'est exactement ce que j'allais dire. C'est une expérience
nouvelle.
Tu vois, jusqu'à
là, on rigole
pas.
En gros, genre, qu'est-ce qui vous arrive et tout. Tain, heureusement qu'il y a des gens qui se contentent pas de faire des jeux de tatapoum avec un flingue ou une épée. Quoi.
Ouais, mais là, ça va être tendu quand même. Enfin, déjà, tu pourras pas y jouer la nuit. Hein.
C'est vrai. Enfin, il faut pas avoir beaucoup de voisins, quoi, en tout cas.
Voilà, mais non, ça va être très bizarre. Quoi. Je pense que ça va être un jeu en coloc. Faut y jouer ensemble ou tu y joues pas. Quoi.
Bah alors, il faut rappeler une chose, hein, quand même. C'est le premier titre développé donc, par la nouvelle boîte de Yuji Naka qui s'appelle Prop. Il se lance aussi comme ça, un petit peu comme l'avait fait pour Rez Mizuguchi. En gros, au Japon, j'ai l'impression que quand des développeurs un peu stars, un peu vedettes lancent leur boîte, ils ont envie de faire quelque chose de complètement différent pour marquer leur différence.
Ou pour gagner plus d'argent.
Ou c'est parce qu'ils ont pris sur la coke.
Ah bah c'est du propre.
Merci.
C'était très intéressant.
C'était très très intéressant.
Il est mort de rire. Vous pouvez pas le voir. Il est mort de rire.
Enfin bon, pour l'instant c'est un peu une sorte de grand ovni. On sait pas trop. Moi je suis quand même en accord avec Angel. Il faut pas stigmatiser la créativité. Pour une fois qu'il y en a, tant mieux. Mais c'est vrai que ça a l'air un peu chelou quand même. Et surtout, il faut espérer quand même que ce genre de jeu soit pas proposé à des 50-60 euros. Parce que clairement quand même.
J'ai cru que t'allais dire des 50-60 ans.
Ça fait quand même un peu succession de petits mini-jeux, quoi.
Ouais, mais attends, on va bien te vendre un Wii Music à 50-60 euros, probablement.
Mais t'inquiète qu'on criera.
Non, il va être moins cher.
Ouais, enfin, tu vois, on va te le vendre au prix fort quand même, quoi, tu vois. Il y a beaucoup de jeux Wii où finalement on n'est pas super actif, hein, faut bien l'avouer, qu'on te vend quand même au prix fort. Enfin, hein. Ce serait pas la plus grande escroquerie de l'histoire du jeu vidéo, en tout cas.
Bien sûr, jouer Wii Music sera un super jeu. On peut faire aboyer des chiens et chanter des chiens, tu te rends compte.
Et jouer au triangle.
Exactement.
Moi, j'ai dit que par contre, on peut jouer avec des vieux sons NES, et ça, je pense qu'il y a certaines personnes qui devraient assez kiffer. Pour faire des vieux sons 8 bits.
Genre CAF.
De la chip tunes, comme
on
appelle.
Non. Ça fera des chouettes vidéos YouTube, en vache.
Ah oui, il y en a déjà sur Gameblog. D'ailleurs, vous tapez Wii Music Miyamoto. Vous allez voir ce que ça sort. Il y a une petite vidéo où il y a Miyamoto en véritable VRP de luxe qui arrive dans une école. C'est à mourir de rire. Et à la fois, c'est super attendrissant, je trouve. Et de voir que les enfants. Non, mais je pense que vraiment la cible numéro un sera vraiment les jeunes enfants. Quoi. Et pour eux, je pense que effectivement, ça a l'air d'être assez magique. Et que si on se met dans la peau de quelqu'un de 5 à 10 ans. Bah, avoir l'impression de pouvoir jouer à plus de 60 instruments et de faire un peu n'importe quoi ou pas et de sortir des trucs, bah peut-être que c'est quand même vachement sympa. Et clairement, j'ai l'impression qu'on n'est pas du tout la cible.
On est déjà des vieux cons, nous. Donc
on avait déjà du mal à être la cible avec Wii Fit, on a encore plus de mal avec Wii Music. Ce serait bien qu'un jour il y ait des vrais jeux. Merci.
Ah non, moi j'étais dans la cible, hein, mais je veux pas m'en servir.
Oh, ouais.
La cible de Wii Fit, ouais, certainement.
Ouais, bah grave.
Cela dit, il y a des très grands jeux sur Wii, les amis. Dont No More Heroes.
Dont No More Heroes, effectivement. Ouais. Enfin, on attendra la sortie du 2 avec impatience pour voir si c'est encore mieux. Hein. Mm. On l'espère. Bon, messieurs, je crois qu'on a fait le tour au niveau des exclusivités, des titres vraiment propriétaires à la 360, la PS3 et la Wii. Il est temps de s'attarder désormais sur les jeux multi. Et alors là, il y a grave du lourd, vraiment. On va commencer, je crois, tout simplement avec, à mon avis, le jeu du salon, celui alors, qui n'est pas le plus original, celui sur lequel on connaissait déjà énormément de choses, mais qui a très clairement mis une baffe colossale à tout le monde, c'était vraiment la méga classe. Capcom avait annoncé 70 bornes de présentation du jeu, là carrément ils y vont, pour un jeu qui est prévu le 13 mars 2009. Il s'agit probablement, vous l'avez compris, de Resident Evil 5, qui a calmé... Tout le monde, avec deux trailers explosifs. Moi, j'ai pris juste une Célestobaf.
j'attendais que tu trouves le mot, là. Si vous l'aviez vu sur MSN. Oh, mon
Dieu. Oh, le rire diabolique. Tu viens de m'atomiser les tympans, mec.
Mais je me rappellerai
encore. Ça va être difficile que t'en parles
que
sans
utiliser
des... Que
tu étais dubitatif. Tu dis, ouais, non, mais machin. Et quand même...
Non, c'était,
et quand même,
dubitatif parce que t'en faisais tellement que je me disais, tu fous de ma gueule.
Ouais, et alors, est-ce que je me suis vraiment foutu de ta gueule?
Bah non.
Et bah voilà.
Mais en même temps, pour en parler sans utiliser de métaphores sexuelles avec toi, c'est difficile. Hein.
Non, mais mes métaphores sont plutôt cosmiques.
Oui, là maintenant, oui, parce qu'on est en public. Mais sur la scène, à ce moment-là, c'était pas ça.
Ne révèle pas notre vie privée, hein, s'il te plaît.
Pardon.
Je serais pas sage ce soir sinon. Mmh. Bon alors ok, parlons un petit peu de ce jeu parce qu'il y a eu pas mal d'annonces. On attendait Resident Evil 5 au TGS pour la confirmation d'un nouveau type de gameplay. Julot en avait fait l'écho il y a déjà quelques semaines. On a eu confirmation, il y a deux styles de gameplay, de quoi s'agit-il?
Voilà, ce n'est pas une refonte complète, donc effectivement on pourra jouer de manière classique exactement comme dans Resident Evil 4. Mmh. Et il y aura une autre manière de jouer qui permettra en fait de straffer, c'est-à-dire de faire des pas de côté. Ce qui plaira, je pense, beaucoup plus au public occidental. Ouais. Mais, parce qu'il y a un mais, faut pas rêver, tu dois quand même toujours t'arrêter pour tirer.
Voilà, what the fuck?
C'est-à-dire que tu peux pas straffer et tirer en même temps, sinon ça s'appellerait un FPS.
Bah, c'est un peu l'idée que moi je suis assez content de ça parce que pour moi Resident Evil c'est un rythme, c'est la peur naît aussi de certaines limitations alors qu'on pourrait critiquer mais bah il faut se poser un peu, reculer. Et moi je trouve que cette nouvelle jouabilité apporte quelque chose, alors quelque chose que moi je n'ai pas vu encore. C'est est-ce que à la Gears of War, parce que c'est un peu ça qui était sous-entendu, on va s'adapter un peu à la Gears of War, est-ce qu'on pourra se plaquer contre un mur, un peu ce que faisait aussi Uncharted?
Alors, en tout cas, a priori, non. Mais ouais, pour l'aspect run and gun, parce que c'est de ça qu'il était question, c'est niat, quoi. Voilà. Ça permettra, le strafe te permettra juste d'arriver un peu mieux dans les angles, de te faire moins surprendre et surtout d'éviter toutes ces...
Bah, pour la faire très simplement, hein, ça veut dire que d'habitude, dans un Resident Evil, quand on, avec le stick analogique, quand on appuie à droite ou à gauche, le personnage, en fait, tourne sur lui-même, sur un axe. Alors que là, désormais, avec cette jouabilité qu'ils appellent action, je crois, quand on appuie soit à droite ou à gauche, en fait, le personnage strafe de manière latérale. Voilà. Et pour tourner, en fait, c'est avec l'autre stick.
Exactement.
Donc ça peut apporter.
Plus classique pour nous, quoi.
Ouais, beaucoup plus classique pour nous. Donc, mais toujours,
et donc, toujours appuyer sur le bouton de aim, de viser.
Ouais. Merci Jean-Claude.
Qui arrête le personnage. Et voilà.
Voilà, alors ça, c'était l'une des informations concernant Resident Evil 5. La deuxième, et pourtant, on a déjà vu moult trailers, bande-annonces de Resident Evil 5. Là, j'ai l'impression qu'on a les bandes-annonces avec le moteur quasiment définitif du jeu. Et alors là, il y a un polish global qui est incroyable. On l'a bien vu dans les forums, certaines voix s'élever en disant « Oui, mais c'est des cinématiques. » Alors, dans ce qu'on vous a pu vous montrer en vidéo, c'est un mélange de cinématiques, mais aussi de séquences in-game. Et je pense, par exemple, à la séquence sur un pont dans une espèce de tempête sous l'eau avec un gigantesque monstre. C'est ahurissant de... Je sais pas, il y a une vraie présence à l'écran, à l'image. Il y a des combats aussi contre Wesker, qui là sont plus cinématiques.
J'allais le dire, il y a Wesker. Parce que Wesker, c'est quand même le...
Le méchant emblématique, voilà. Le mal incarné.
Qui a la super classe, pareil.
Qui a la super classe, et voilà.
Qui se téléporte un peu.
Un petit peu.
Dans les combats, j'ai vu.
Vampire style.
Ouais, ça, je trouve que ça c'est un petit peu Metal Gearisé.
Sur la mise en scène, surtout.
Sur la mise en scène, très clairement. Ouais. Et d'ailleurs, alors ça, je sais que ça peut en faire peur à certains, et à juste titre. C'est qu'ils annoncent 15 heures de jeu, à peu près, pour Final Resident 5.
Et 72 heures de dialogue.
Donc 15 heures, c'est plutôt une bonne durée de vie pour un Resident Evil. D'habitude, hein, jusqu'au 4, c'était plutôt 7, 8, 9 heures, aller à tout casser d'une traite. Le 4 avait été l'exception qui confirme la règle, avec un boost de durée de vie assez impressionnant. C'était plus au-delà de 15 heures de jeu.
Alors qu'en plus, le jeu était découpé et tout.
Voilà, exactement. Mais pour celui-là, on annonce 15 heures avec 8 heures de cinématique.
Attends, tu veux dire avec plus
un pas
ou
dedans?
Non. Bah non, a priori c'est plutôt dans les 15 heures, il y a 8 heures de cinématique.
Putain, merde. Donc il y a 7 heures de jeu.
Ce qui serait
quoi.
À la fois une première pour Resident Evil, parce que d'habitude en cumulé dans un Resident Evil, il doit avoir à tout casser 1 heure et demie, 2 heures maxi de cinématique.
Et là ça va faire blabla.
Ça risque de parler pas mal. Alors à la fois ce qu'on en a vu, c'est
mais
juste
scénaristiquement,
magnifique.
Scénaristiquement, ça peut être génial
bah,
aussi.
Bah espérons, voilà.
S'il y a souvent la blague à l'écran, moi je suis pour. Non, elle est très bien modélisée.
Non, mais très clairement. Honnêtement, si ça fait comme Trace. Uncharted, ça me dérange absolument pas, hein, qu'il y ait 8 heures de cinématique. Si t'es bien dans le truc, le scénario tient le coup.
Uncharted, il y avait.
C'est fantastique. L'intégration
c'est
fantastique.
C'est très très bien fait, c'est très bien intégré. Voilà.
Moi j'ai adoré.
Ça passe, le temps passe.
Mais en fait, tu joues pour.
Vite, mais tu joues tellement. Enfin, t'es tellement content de jouer au truc que tu sens rien. Quoi.
Mais tu t'éclates, ils avaient un flow dans Uncharted qui était extrêmement bien réussi. C'est-à-dire que tu joues, et hop, t'as la séquence, t'es dedans, tu continues, on te refile les commandes. C'était jamais trop long, c'était juste suffisant pour te redonner de l'affect par rapport au personnage.
Moi, je crois que plus les mois passent, plus vraiment définitivement, je crois que Uncharted est un jeu qui a été mal qui n'a pas eu le succès qu'il mérite.
Ah ouais,
c'est extraordinairement bon jeu, Uncharted.
D'ailleurs, c'est pas un truc qui révolutionne tout, mais vraiment,
mais
il est conçu de telle façon que t'es obligé d'accrocher du début à la fin. C'est pas possible.
C'est bien réalisé, c'est intéressant. Le scénario est pas si bidon que ça. Les personnages sont vraiment intéressants
Tout à fait.
On s'y attache bien. Enfin, c'est.
Il y a juste le rendu au niveau graphique. Il y a des trucs qui m'énervent. Ça fait vraiment plastique, mais sinon le jeu était fantastique.
Il y a un bug sur une cinématique, mais j'ai l'impression que personne l'a remarqué. Mais bon, c'est pas. J'en parlerai un autre jour.
Et à la fois, on parle de Resident Evil 5. Bon,
c'est pas grave. Mais bref, c'est tout le mal qu'on lui sait à Resident.
Donc Resident Evil 5, réalisation qui déboîte d'une force mais incroyable. Aussi le mode coop qui était vraiment amplement présenté.
Ouais, c'était déjà
ici,
annoncé, mais
ça,
c'est vrai que ça va être génial. Enfin, t'imagines.
Mais ouais.
On pourra juste se faire le jeu en entier à deux. Quoi.
Et non, mais et c'est surtout qu'on revient apparemment. Moi, c'était vraiment ma peur sur Resident Evil 5, soit vraiment orienté très action, etc. Bon, très clairement,
oui,
ça se confirme.
Même.
Non, mais ça se confirme pleinement. Mais ce sera pas que du shooting dans le sens tir au pigeon, genre un peu facile. On déboîte. Non. Apparemment, là, c'est vraiment pas évident du tout. Ça veut dire que quand on joue à deux en coop, on a une horde de zombies. Ça veut dire genre plus de 12 zombies sur soi. Et que
une horde de 12 zombies.
Ah bah vas-y, 12 contre 2. Et donc vraiment, on est obligé vraiment de céder parce que sinon, c'est vraiment la fin. Et on peut aller, même si son coéquipier est blessé, on a quelques secondes pour aller le sauver, le soigner, etc. Enfin, ça peut être vraiment intéressant.
Oui, oui, oui. Enfin, faut voir aussi après en solo comment ça va tourner. Parce qu'en coop, ça va être très bien, mais en solo, il y a des situations où l'autre personnage est géré par la console. Donc, c'est toujours un peu délicat ce genre de choses.
C'est casse-gueule même.
En tout cas, on l'attend très clairement. Bande-son qui déboîte, réalisation qui tue, scénario qui pour les fans.
Célesto cosmique, blablabla.
Ça pourrait être vraiment bien, surtout qu'on ne va pas vous le dévoiler, pas spoiler si vous êtes, si vous n'avez pas vu les bandes-annonces. Mais alors, franchement, ceux qui connaissent bien la série, il y a 3 spoils énormes dans la deuxième bande-annonce qu'on vous a balancée. Ça concerne des personnages phares de la série et ça permet, là, pendant jusqu'au 13 mars, de se poser énormément de questions. Et si on est fan, juste, on n'en peut plus. Moi, c'est mon cas. Voilà, et ça concerne un personnage féminin, entre autres. Prince of Persia, voilà, on enchaîne Prince of Persia avec un jeu occidental qui était présenté au Tokyo Game Show. Alors, on n'a pas appris énormément de choses, hein, à part qu'ils savent définitivement bien manier l'art de la communication avec Sia, Bless Me, magnifique musique.
Ils assurent sur leur trailer avec leurs choix musicaux, c'est sûr.
Complètement. Prince of Persia qui a l'air poétique, hein, en tout cas, c'est vraiment le focus sur lequel ils ont. C'est vraiment ça sur lequel ils misent, très clairement. Ça a l'air complètement nouveau. La franchise prend un nouveau départ. Qu'est-ce que vous en pensez, Traz?
Non, non, moi je voulais juste faire une petite parenthèse. C'est que sur Kotaku, donc, qui est quand même pas un petit site, ce trailer-là en question avec la musique de Sia, il a cartonné. Tout le monde l'a regardé. Alors que pourtant, c'est un trailer comme on en avait vu un peu avant, mais je sais pas, la musique.
Ça touche les gens, quoi. Il y a quelque chose en plus. Quoi.
Moi je connaissais pas, hein, j'avoue. Mais franchement, c'était très bien mis en scène et très, bien, très sympa, quoi.
Ouais. En tout cas, Prince of Persia, on l'attendra avec impatience. Il sort en décembre, début décembre chez nous. On aura vraiment l'occasion de reparler parce que, soyons honnêtes, hein, au TGS, on n'a pas montré grand-chose de plus de ce qu'on connaît actuellement. Et là, on va rentrer dans du lourd. Là, on va rentrer dans l'annonce multi, probablement, du Tokyo Game Show. Tekken 6. Tekken, série emblématique de l'histoire PlayStation. PlayStation 1, PlayStation 2... Et bien normalement PlayStation 3, sauf que oui, PlayStation 3, mais aussi Xbox 360. On n'a pas appris énormément de choses sur le jeu, mais à la fois c'est retentissant quand même comme annonce. C'est une fois de plus une grosse licence dédiée, brandée PlayStation qui échappe en termes d'exclusivité.
C'est une vieille licence. Je sais pas, ça a vachement moins d'impact. C'est une licence qui, je trouve, vient un peu vieillissante. Bon, j'ai jamais été amoureux de Tekken en même temps. J'ai toujours trouvé ça un peu à chier. Mais
c'est vrai qu'il.
Mais voilà, en soi, c'est vieux, quoi. Il nous aurait sorti un Toshinden à la place, ça fait un peu pareil, quoi.
Oh merde.
T'exagères un peu.
Et
ben
voilà.
Je suis d'accord avec Ran, j'en ai rien à carrer. Ouais. Mais rien. Mais.
C'est juste marrant que, effectivement, ça se fasse. Encore une exclusivité, un truc traditionnellement, ok.
Voilà, mais
bon. C'est quand même c'est un bastion de la PlayStation, quoi.
Ils auraient fait annoncer Street en exclu sur une des machines, je dis pas, tu vois. Mais là, oh, Tekken.
Angel.
Moi, je pense que chez Sony, je suis comme tout le monde, quoi. Je pense qu'ils ont pas pleuré des larmes de sang, quoi.
Voilà, c'est ça. T'as l'impression qu'ils leur laissent un peu.
Tu vois, ils ont dû dire, ah, hey, merde, bon.
Les fonds de tiroir.
On va se jeter une bière et puis voilà, quoi.
Non, mais
ça sera oublié, quoi.
Non, mais je suis d'accord, mais quand même, ça souligne juste une chose très claire, c'est que Namco. À l'image de Capcom, est définitivement un éditeur multiplateforme. Ridge Racer, c'était de la PlayStation, c'est maintenant multiplateforme. Ouais. Soul Calibur, c'était de la Dreamcast, mais enfin bon, ça a été un peu, c'est du multitotal.
L'argent.
Il y avait Ace Combat aussi, ouais. qui était généralement PlayStation, qui a même été exclusivité pour la 360. Ça y est, c'est fini. Hein. Sony, c'est on va dire ces bons soldats qui l'avaient aidé à l'époque de la PS1 à vraiment décoller. Ne sont plus que des contributeurs.
On ne fallait pas les embêter.
Et à la place, en exclusivité, on a Quantum Theory.
Pardon. Bon, c'était
passé
à peu près...
un truc.
Voilà, Tekken 6, moche. Vous l'aurez compris, ça ne nous enflamme pas, ça ne nous fait pas hurler au scandale. Hein. Peut-être vous, hein, sur les forums, n'hésitez pas à vous exprimer. Si pour vous, Tekken 6, le fait qu'il devienne multi vous choque un peu, exprimez-vous. Mais en tout cas, nous, vous aurez compris que on ne va pas en mourir. Hein.
Si on nous en touche une sans pas... bouger l'autre.
Ouais. C'est un peu l'idée. Bon, en revanche, justement, en parlant de choses qui se touchent, il y en a une qui, pour certains, visiblement, pourrait vite devenir une sorte de fantasme numérique.
Ouais.
Il s'agit de Bayonetta. Bayonetta, on en parlait, la rumeur, les gens qui avaient pu le voir nous disaient « C'est surprenant, vraiment, il y a quelque chose qui se passe. » C'est la nouvelle création.
C'est très, très, très beau, quoi.
C'est super beau. C'est la nouvelle création de Camilla, qui est donc... Hideki Kamiya, qui est donc le réalisateur des Devil May Cry, du premier Devil May Cry en tout
D'ailleurs,
cas.
D'ailleurs, ça se voit.
Complètement.
Un tout petit peu.
Donc, Transfuge de Capcom, c'est sa nouvelle société, c'est Platinum Games, ce sera le deuxième jeu de Platinum Games, après Mad World,
sur Wii.
Sur Wii, qui est ce jeu en noir et blanc
et rouge. Noir et blanc et rouge.
Ultra gore. Et Bayonetta, et bah pour lui, il l'annonçait comme le renouveau absolu de l'action. Clairement, il disait on s'est déchaîné. Et c'est vrai. Parce que le trailer, c'est n'importe quoi.
Je crois qu'ils ont tout donné.
Ah, mais alors, mais justement, ce que j'aimerais savoir, c'est ils ont tout donné et ça vous donne le sourire, ou ils ont tout donné et vous faites qu'est-ce que c'est que ce truc de kitscherie ? Caf.
Ah, moi, je suis à mi-chemin. Les guns sur les pieds, j'adore. C'est les juste talons, n'importe en fait, quoi. Ouais. Oui, pardon, les talons. Le look de la meuf, mais au secours.
La caméra, la caméra qui passe en dessous de ses jambes, là, comme
avec
ça.
Avec les lunettes et tout. Elle est, c'est juste un fantasme japonais de working girl, working girl fringuée en cuir. Mais
la musique est kitsch.
Ah, mais tout est kitsch. L'action est méga kitsch. Ouais. Je veux dire, ça va tellement vite que tu vois rien.
Mais rien. L'action, c'est Devil May Cry, quoi. Julo, faut être clair. C'est,
ah, mais
c'est
juste, c'est
sous en fait. Mais ouais, mais ouais, ils ont en accéléré, ouais. Tu vois, en une fois et demie. C'est vraiment très bizarre. Maintenant, franchement, j'attends d'avoir le truc pas dans main, parce que c'est le genre de jeu, tant que tu n'y as pas joué, tu peux absolument pas savoir si ça va vraiment être fun ou juste relou, quoi.
Raon ?
Ouais, bah, la promesse qui fait Camilla de reproduire ce qu'il avait fait avec Devil May Cry à l'époque, déjà, s'il y arrive, bah, déjà, ça me suffit. Mm-hmm. Parce que franchement, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand Devil May Cry est sorti le premier, c'était un peu genre une méga tuerie.
Mais à la fois, l'univers de Devil May Cry, moi, personnellement, m'attirait vraiment ce côté gothique classe poseur. Et là, moi, ça m'a l'air tellement surenchère.
Oui.
Je pense qu'en termes de gameplay pur, ça va être vraiment classe. Enfin, il y aura plein de choses. On va pouvoir comboter à gogo. Mais bon.
Écoute, non, mais la surenchère, si elle est un peu second degré, comme dans Devil May Cry 4, justement, ce qui t'avait bien fait marrer dans certaines scènes, pourquoi pas. Enfin, tu vois, ça peut être un triple.
Ouais, Angel qui
mais moi, j'utiliserais un petit plus sourire. Le terme, c'est de la démesure. Tu vois, c'est même pas de la surenchère. Moi, je trouve que c'est de la démesure, quoi. C'est à l'américaine, quoi. Il faut vraiment que ce soit plus grand.
Non, ça me fait
et
penser.
Plus gros,
ça
et plus explosif. Et moi, je suis plus porté vers le too much. Enfin, vraiment, je pense qu'au bout d'un moment, c'est too much.
Ah, ça me fait penser à un film Jap, qui avait mis des mecs qui se transformaient comme ça, qui se battaient tout seuls contre une armée de robots. Je me rappelle plus du titre.
Ah, Cacherne.
Ouais, voilà. Cacherne. Ça me fait penser
Cacherne.
À ça. Cacherne. On est dans le n'importe quoi. On est vraiment dans le n'importe quoi. Et est-ce que ça va être amusant ? Bah, j'en sais rien.
Bref, en tous les cas,
le trailer m'a fait marrer, quoi.
Ouais, en tout cas, ça a fait du bruit. Hein. Clairement, ça a permis d'attirer l'attention sur Bayonetta. On avait eu un tout premier teaser, je vais dire, à l'E3, ça voulait rien dire. Là, on commence à cerner un petit peu plus le truc. Bah, on va suivre ce que c'est. Hein.
C'est un nom original, ça change.
Ouais. C'est vrai, y a pas, c'est pas Ninja quelque chose, quoi.
Ah, bah, je ne voyais pas du tout de quoi tu parles.
Ou Devil Bidule. Ouais. Bon, bah écoutez, Bayonetta, un jeu à suivre en multi. Hein. Est-ce qu'il en sera de même pour Castlevania Next Gen, qui là joue la force du teaser absolu? Et alors, ça, c'est quand même assez drôle. Ça veut dire que même le créateur lui-même de ce Castlevania
était surpris
qu'on le dévoile. C'est quand même hallucinant, Julo.
Bah écoutez, ouais, ils avaient pas grand-chose à montrer à part un minuscule teaser qui permet juste de lancer la nouvelle. Ouais. Il y a un nouveau Castlevania qui arrive.
Chouette.
Chouette. Ouais, pourquoi pas.
Ah non, mais c'est pas ironique. Hein.
Mais moi, c'est ça qui m'a étonné, c'est que j'ai l'impression que personne n'en parlait au départ. Moi, quand j'ai fait la news, j'ai vu sur net, mais personne n'en parlait, quoi. Donc je me suis dit, ils ont fait ça en catimini, il y avait trois journalistes.
Non, mais parce que ça, c'est surpuissant. Ça veut dire t'as anticipé le truc et t'as lancé le buzz.
J'étais très étonné de voir que personne n'en parlait.
En fait, c'est Trace qui développe le jeu.
En secret dans sa cave.
Vous avez pas grand chose à
dire. Maintenant, on peut vous le dire.
Non, mais moi, ma question, c'est.
Tu dois casser des murs, des chaises et des paddles.
Moi, ma question.
Enfoiré.
Ma question, et j'aimerais bien que tout le monde comprenne que c'est mon rôle de pouvoir poser ce genre de questions. Est-ce que Castlevania n'est pas une licence un peu has-been et qui a un peu fait son temps? Attention, entre parenthèses, tout ce que je dis, je ne le pense pas forcément. Pose des questions, merci.
Non, moi je pense que sur Xbox 360 et PS3, il va être bien, j'en suis sûr, ils vont tout refaire à zéro.
Parce que Castlevania, ça fait bien longtemps que c'est pas bien.
Oui, je sais, mais justement, là, je pense qu'ils vont tout refaire à zéro.
Ah, non,
mais
il y a des bons trucs, d'accord. On a le grand fier de la rédac qui fait...
Exactement comme Sega avait fait avec Sonic.
Ouais.
Pour les épisodes, actuels, mais il faut quand même souligner que Castlevania, c'est aussi un peu tous les épisodes DS qui sont quand même très bien.
Qui sont excellents.
Oui, tout à fait.
Ressemblant les uns les autres, mais...
Période, voilà.
Merci. Non, mais, c'est...
mais parce qu'ils sont en 2D, et là, attention, exactement comme les Sonic 2D, restent encore parfaitement corrects, mais ridicules en 3D. Enfin,
Sauf beaucoup moins Sonic Adventure.
Enfin, dernièrement maintenant, mais. Enfin, beaucoup moins maintenant, mais avant quand même, on a frôlé la crise.
Bon, bah ça sera peut-être un Devil May Cry-like.
Ce qui me fait beaucoup plus flipper, c'est le jeu de baston en Castlevania, par exemple.
Ouais. Là, j'ai... Avec quelques petites nouveautés quand même, enfin qui j'ai trouvé plutôt pas mal. Ça veut dire que donc c'est du duel, hein, c'est de la baston pure et dure. Mais parfois il y a des ennemis qui arrivent du fond de l'écran et tu dois te battre contre eux. Donc tu te concentres plus sur ton adversaire, tu te débats, machin, puis le combat reprend. Ça, j'ai trouvé ça pas mal.
Ouais, t'as raison, en fait, je suis vachement tenté par ce jeu.
Très bien. La force de la conviction, putain, c'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau. D'accord, bon, bah Castlevania, moi personnellement, depuis Symphony of the Night, hein, j'ai quand même un peu l'impression que la série patine, en tout cas sur console de salon, on va dire. Okay. Et là, on fait, ouais, c'est vrai. J'avoue.
Il le fait
et ça
super
me fait plaisir. On finit avec le multi, avec un jeu incontournable et une annonce lors de ce Tokyo Game Show, Street Fighter 4. Traz, je me tourne vers toi. Il y a une charmante demoiselle qui rejoint le casting, je crois.
Ah oui, la fameuse. Comment déjà ? Ah oui, Sakura. Bah voilà, je suis super contente. Enfin.
T'es super contente ?
Content, pardon. J'ai même pas fait exprès.
Et merde. Ouais, faut qu'on te parle.
Bon, faut
ça
couper
va pas
là
du
au
tout.
Montage, hein, CAF. Hein.
D'accord, ok, bien sûr.
Je vais non, le garder. Il n'y a pas que ça qu'on va couper, visiblement.
On n'entendra que toi, tu peux me faire confiance.
Mais non, moi je me souviens de l'époque où je pulvérisais Greg avec ce personnage, c'est tout. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire.
Donc là.
Et tu n'es pas là, Greg, dommage.
Il était dégoûté.
Non, mais qui est dans le blog de Gameblog. Hein,
tout en fait.
Avec une belle tête, une bonne cabesse. Donc oui, Street Fighter 4 arrivé de Sakura, c'est sympa. Le jeu, on l'attend de pied ferme, hein, fin d'année sur toutes les consoles next-gen. Ça a juste l'air d'envoyer du lourd. Hein. On a qu'une envie, c'est d'y mettre les mains. Ça a l'air juste sur canon. Espérons que en vrai ce soit le cas. Mais enfin, tous les retours qu'on a eu, en tout cas des gens qui jouent en bande d'arcade, c'est monstrueux. Donc voilà, on a vraiment envie d'y jouer. On finit avec les consoles avant de conclure le podcast sur les déceptions, les jeux qui nous ont manqué. Il y en a avec la PSP, la DS, avec du Square Enix, Kingdom Hearts, Julo.
Oui, alors Kingdom Hearts arrive sur PSP et DS.
Ah, oh, comment tu brodes.
Non, à vrai dire, je suis pas un spécialiste de la série, je crois qu'il y en a aucun ici, mais donc voilà.
Mais ce qu'on a pu voir, c'est que ça a l'air super bien réalisé, quelles que soient les deux consoles.
Ouais, sur PSP surtout, évidemment,
Et que ça s'annonce pas mal, en tout cas pour les fans, ceux qui suivent la série, ça a l'air d'être assez traditionnel dans ce genre.
Ouais, pas plus que ça, apparemment, quand même. Ouais. Pour ceux qui ont l'habitude. Ils sont plutôt dubitatifs, pas sur l'aspect technique et visuel qui est effectivement très réussi, mais sur le reste.
D'accord, bon, bah, on passera assez vite, vous l'aurez compris. Sur DS aussi, Dragon Quest 9 qui était montré en behind the closed door, dans le méga theater Square, on n'a jamais le droit de filmer parce que vous comprenez, on peut pas montrer des images avant 4 ans. Ils sont relous avec ça. Mais néanmoins, on vous a montré une vidéo de quelqu'un qui a introduit une caméra. Alors, on voit pas grand chose, certes. Mais enfin, ça a été l'occasion. Puis nous, Fanny nous en a un petit peu parlé. Apparemment, le jeu est vraiment super beau pour de la DS. Bon, c'est du Dragon Quest. J'ai commis l'erreur de dire, mais est-ce qu'on l'aurait pas préféré sur console de salon ? C'est pas pour déprécier ce jeu, mais c'est vrai que. Une grande aventure, un grand RPG, on a toujours un peu envie.
T'en as jamais assez, toi.
Ouais, mais je suis un insatiable.
C'est ça, oui.
Je voulais dire un éternel insatisfait. Enfin bon. Bon,
C'est la fin, il n'en peut plus, voilà. Il faut clore.
Ce que je voulais dire, c'est qu'on attendait. Enfin, ça va être super, mais que sur une petite DS.
Bah ouais, mais aujourd'hui, quand t'es fan de RPG, je crois qu'il fait bon d'avoir une DS.
C'est vrai,
quoi. Non, mais
complètement.
Il y a eu aussi de présenter
Suikoden. Tearcrace.
Voilà. Ah bravo, t'as réussi à le dire.
Ouais, t'as vu pas mal.
Je sais pas si tu l'as bien dit.
Mais... Si.
D'accord. Qui s'annonce aussi très mignon, très bien fait, avec des scènes en dessin animé super classe et tout. Donc, voilà.
Complètement. Et d'ailleurs, on va dans quelques semaines vous proposer un podcast dédié au RPG à la japonaise. Et vous verrez qu'une des choses sur lesquelles on a un peu envie de revenir, et c'est là où la DS finalement apporte quelque chose, et ce Dragon Quest 9 aura probablement toute sa légitimité grâce à ça, c'est que le fait qu'on n'ait pas des graphismes surréalistes permet de peut-être s'évader un peu plus, d'imaginer un peu, et de revenir à l'époque un peu de l'époque Super Nintendo, ouais. NES.
Voilà,
finalement,
c'est encore notre vision à nous, parce qu'on a joué à l'époque au RPG sur Super NES, et que effectivement,
ça fait plus travailler la machine.
Ouais,
exactement.
Alors qu'aujourd'hui, hein.
T'es du pré-mâché.
Bon vieux Secret of Mana.
C'était classe.
Qui revient là en console virtuelle.
Exactement. Avec Flammy. Qu'est-ce que j'aimais, Flammy.
La classe.
Bon, c'était à peu près le tour sur tous les jeux qui ont été. Enfin, pas tous, hein, bien sûr, il y en a d'autres, hein, mais vous pouvez voir dans le grand thème dédié au TGS. Je crois qu'on a été assez exhaustif là-dessus. Puis grâce aux vidéos de Fanny, découvrir un petit peu les coulisses, l'envers du décor, et puis la vie qui se trouve lors de ce TGS. Mais on ne peut pas conclure sans parler des grands absents. Et justement, je pense qu'on va commencer directement avec Square Enix. Alors, oui, Final Fantasy XIII était présenté, Versus XIII aussi, mais c'est comme d'hab, j'ai envie de dire, toujours les mêmes trailers, on n'apprend pas grand-chose de nouveau. Il y a eu évoqué les noms officiels des personnages de Versus XIII, etc. Entre guillemets, qu'est-ce qu'on s'en fout ? Nous, ce qu'on veut voir, c'est... Et puis, on aimerait y toucher quand même à ce jeu qui, normalement, est quand même, je rappelle, prévenu pour 2009. Hein.
Bah, oui.
Ça, c'est un peu une déception, quand même.
Les deux pour 2009 ?
Ouais. On était un petit peu en mesure, vous croyez pas, de voir peut-être quelque chose de plus consistant, non?
Rien, pas de séquence en gameplay et tout. Je trouve que c'est un pur scandale.
Et puis, ils veulent faire un gros buzz avec la première démo jouable qui sera offerte.
Vendue, ouais.
Avec le DVD
De Final Fantasy Advent Children.
Exactement. Donc je sais pas si c'est un rapport, c'est un mais il y a certainement un plan marketing de ouf.
Non mais je viens de réaliser, t'as complètement raison. C'est juste qu'ils vont le faire jouer à personne avant pour que tout le monde se rue
dessus. Tout le monde achète le
Blu-ray. Non mais t'as raison.
C'est des malins.
C'est des malins, sauf
ou
que...
Ou des escrocs.
Ou des escrocs. Je rappelle quand même que globalement, depuis l'E3, si je ne dis pas de bêtises, 2005, il n'y a quasiment pas eu de nouvelles images de FF13. À part... à chaque fois, ils rajoutent 3-4 plans supplémentaires,
dans
etc.
Dans le même trailer, plus ou moins.
Dans le même trailer. Ouais. Mais on n'a rien vu d'autre, hein. Ça fait maintenant plus de 3 ans. Bon, c'est une certaine manière de communiquer. Remarquez, on en parle et tout le monde attend FF13. Donc ça n'a pas l'air de mal marcher. Mais...
Et tout le monde va acheter ce putain de Blu-ray.
Ouais, mais.
Non, alors là, comptez pas sur moi, les gars.
Écoute, si on en a un à la rédac, on se le passera. Voilà. C'est pas bien grave. Mais bon. Donc Final Fantasy XIII, qu'est-ce qu'on l'attend? Mais qu'est-ce qui se fait attendre aussi, hein? En parlant de jeux qui se font méga attendre, je crois que. Et ça, c'est. À titre personnel, mais je crois que je suis pas le seul ici. La déception, l'absence de ce TGS. On l'attendait, c'était la rumeur, plus ou moins officielle. Il devait, a priori, parmi nos informations, être montré. Puis au dernier moment, ça n'a pas été le cas pour lui réserver un événement dédié. Il s'agit du jeu de la team ICO, qui s'appellerait, on ne sait pas, ICO 3, Sanko. Pour l'instant, rien du tout, aucune information.
Ça serait surprenant parce que c'est Julo qui l'a.
Exactement. Mais alors là, la classe du truc. Comme ça. T'es margé de la classe. mais bon, donc aucune.
Sur référencement.
Number one. Mais aucune information donc sur le nouveau jeu de Fumito Ueda.
Ça devrait pas tarder là. Du coup, ils vont faire le truc dans pas longtemps, je pense.
D'autant que vraiment, de manière quasiment officielle, le jeu devrait sortir en 2009. Il serait peut-être temps d'en parler.
Ouais, voilà, qu'est-ce que tu veux qu'on dise?
Non, mais pourquoi?
On voulait le voir, quoi.
Alors expliquez-moi, pourquoi?
C'était le seul truc que je voulais vraiment voir au TGS, c'était ça.
Pourquoi Sony n'a pas profité du TGS? Parce que finalement, Sony ne fait pas non plus un grand TGS, marque pas énormément de points. C'était peut-être une super cartouche à jouer.
C'est peut-être parce que c'est super pas prêt, les gars.
C'est peut-être pour ça. C'est vrai qu'il y avait peut-être qu'il.
Ça ne marche pas.
Ils prévoyaient peut-être de pouvoir boucler, une première vidéo ou machin, et puis finalement ils n'ont pas pu le faire, quoi. Peut-être. Donc on peut pas. C'est pas forcément des raisons marketing toujours. Hein. Il y a aussi des raisons de dev. Hein. Donc de toute façon, je crois que traditionnellement, ils n'ont jamais vraiment dévoilé les jeux de la Team ICO avant de montrer des trucs qui était
monsieur.
Sauf une fois, oui, la version PS1.
La version PS1 d'ICO, et puis la version PS2 que même Sony savait pas ce que c'était. C'était le tout début.
Nous verrons bien.
On rappelle que la Team ICO, c'est juste l'équipe avec celle de Gran Turismo qui a raflé le plus de prix de l'histoire de tout Sony en termes de jeux vidéo.
Oh là là.
Oui, c'est un petit peu l'idée que j'ai aussi. Bon, c'est de la grosse déception à ce niveau-là. On aurait pu aussi s'attendre à peut-être voir Itagaki. Chercher du boulot et présenter quelque chose, genre dire forme une nouvelle société qui va être super, mais non, ou qu'il avait trouvé un produit pour
Ninja
sa peau,
peut-être.
Et ben on ne sait pas non plus. voilà, ou balancer des formules choc. On aurait pu s'attendre à un Zoé 3 aussi, qui était un petit peu en rumeur, etc.
Non, ils ont appelé tant que t'as pas fait ta chronique, y a pas de voilà.
Ouais, c'est ça, c'est tant qu'il n'y a pas de podcast.
Le podcast Zoé. Et...
Pourquoi j'ai relancé cette histoire? Je me tire une balle là. Quand il officialisera Zoé 3, on en reparle.
Surtout que tu seras tout seul pour ce podcast.
Ah ouais, mais complètement alone in the world. Non, toi tu avais joué, t'avais un peu aimé.
Non, j'adore, j'ai regardé.
Bon, Julo, tu m'aideras. Il y avait God of War 3. Bon.
On n'en verra rien avant un paquet de temps.
Avant un paquet de temps. Dead or Alive 5.
Ah bah non, il n'est plus là.
Bah là, très bien. Donc bon, des absents aussi. Hein. Très clairement, vous en verriez d'autres, des titres que vous attendiez.
Non, non, Tor, c'est connu.
Shenmue 3.
Oh, ok, pardon.
Non,
j'ai envie de dire LOL.
Tu t'en vas.
Oh mon dieu, non.
Et là, c'est pas grave. Et là, c'est grave.
Bah malheureusement, non, effectivement. Bon, alors, pour conclure, parce qu'à un moment...
il serait temps, là.
Il serait temps, hein.
Ouais.
Un TGS que vous avez jugé, finalement... sympathique, plein de vie, un salon sympa avec des belles animations. Il y avait le jeu aussi, comment ça s'appelle, avec le tremblement de terre et le truc qu'on veut tester, vous pouvez le voir dans les vidéos de Fanny, c'est vachement drôle. Enfin, sorti de là, c'est pas pour la clôture, on va dire, des grands salons de l'année 2008, c'est pas folichon. Du coup, quel est pour vous le bilan un peu des annonces générales de 2008? On va commencer par CAF, on va faire un petit tour de table. Quelle est la valeur des annonces 2008 cette année en matière de jeux vidéo?
Non, je voulais surtout parler de l'aspect japonais du salon. Enfin,
ils sont complètement à côté de la plaque sur tout ce qui est jeu en ligne, le truc qui amène.
C'est pas qu'ils sont à côté de la plaque, c'est qu'ils sont absents.
Ils sont absents, mais en plus, ils ont vraiment. Voilà, il y a un MMO japonais. L'aspect en ligne de leur jeu est soit anecdotique, soit un développement à part. Par exemple, Metal Gear Solid 4 avec MGS Online.
Avec une nouveauté, justement, la montrer au TGS, le même.
Oui, voilà.
La donne même.
Mais ils essayent de faire. À chaque fois, ça reste du gimmick, si tu veux. C'est pas, ça fait pas partie d'un produit. Il n'y a pas cette volonté occidentale. Alors, Sony s'est rapproché de sa filiale Sony Online Entertainment pour faire tous les MMO que SOE va sortir. Les pauvres développeurs, ils doivent se tirer des balles parce que maintenant, dès qu'il y a un MMO SOE, il doit être sur PS3. Donc, je pense qu'il y a des développements PC qui vont juste être jetés par la fenêtre parce que c'est juste infaisable de faire un MMO console qui marche pour l'instant. Il n'y a que FF11 qui a été fait et le reste,
mais ça n'existe
pas.
Mais pourquoi c'est pas faisable ?
Non, mais c'est pas ça. C'est qu'il y a plein de concepts. En termes de dialogue, il faut des claviers, il faut de l'audio qui marche, etc. Il y a plein, même dans le gameplay, si tu veux, les gameplays sont des gameplays. Les gameplays de MMO, c'est les gameplays où tu es à 20 cm de ton écran. Tu n'es pas vautré dans ton fauteuil. Quoi. Il y a plein de trucs.
Ça peut changer. Il peut changer de faire.
Justement,
quoi.
Mais je suis étonné que les
que
Japonais.
Personne ne s'intéresse pas au problème. Quoi,
voilà. Mais... Moi, je me rappelle.
Non, mais les Japonais, les claviers, ils utilisent comme pour Tapping of the Dead, je vous rappelle.
Voilà, au secours, quoi. Mais Final Fantasy Star avait ouvert. Enfin, tu vois, ils avaient Fantasy Star, ils avaient fait des trucs. Et là, je suis vraiment étonné qu'année après année, encore cette année, où on parle que de ça du côté américain, du côté européen, il
rate un peu le coche.
Bah, carrément, pour moi.
Alors que le Japon est super équipé en haut débit, etc. Donc en plus,
ils sont du haut débit en Wi-Fi avec leur téléphone. Quoi.
Donc ils pourraient être direct, toute l'infrastructure pourrait être. Quoi.
Moi, je comprends pas. Et c'est ma grosse déception. Et entre ça et FF13.
Il
n'y
a pas beaucoup de joueurs de MMO au Japon, complètement.
Mais attends,
pas tant que ça, quoi.
Ils sont passionnés.
Parce qu'il y a pas grand-chose,
ils sont passionnés par l'univers. Ils ont des séries télé, ils ont des dessins animés.
Ouais, mais ils jouent sur leur mobile, ils jouent sur leur DS, ils jouent.
Bah, pas tant que ça, d'après les infos que j'ai. Donc il y a vraiment un marché à prendre. C'est vraiment bizarre qu'ils y soient pas plus, quoi. Mais c'est super. Il faut le trouver à la japonaise, parce que je pense que ils bossent tellement aussi qu'ils ont pas forcément le temps de le même temps que les occidentaux.
Oui, parce que eux ils travaillent alors que
parce
nous on
que
rien.
Ils bossent. Mais je pense qu'il y a plein de trucs à inventer. Enfin, en tout cas, avec leur art au niveau dessin, caractère design et tout, ils pourraient faire des trucs mais tellement bien, quoi. Enfin voilà. Donc pour moi,
déception,
c'est un peu déception
concernant le online pour CAF. Raon.
De tous les salons, je crois que le truc que je retiendrai le plus, c'est quand même l'annonce de FF13 sur 360.
Ouais, je crois aussi.
C'est à mon avis la plus grosse annonce qu'il y a eu sur tous les salons.
Donc lors de l'E3.
Voilà. Et en dehors de ça, finalement, même sentiment que général, c'est-à-dire pas super emballé, et vraiment la sensation que de toute façon, c'est pas simplement une passade, c'est comme ça, les salons, ce sera comme ça maintenant, ça va s'orienter plus consumer, plus Noël, plus machin.
Qu'est-ce qui sort
on
dans,
déjà
dans
dit
les trois mois à venir
déjà dit beaucoup.
Et finalement, quelque part, le salon de l'E3, on l'a beaucoup critiqué parce qu'on l'avait connu gigantesque. Finalement, ça reste des trois salons qu'on a vus, celui où il y a le plus d'annonces intéressantes, même s'il n'y a pas eu grand-chose, hein, je le reconnais, mais.
Ouais, c'est celui qui était le plus reculé par rapport à Noël, quoi. Ça changera certainement pas.
Traz, ton avis sur l'état de santé un petit peu les trois salons, les annonces globales de 2008.
Je suis un peu comme Raon. L'E3 en premier, ensuite la Games Convention et puis le TGS, un petit TGS, quoi. Pas grand chose de très intéressant. À part Let's Tap sur Wii et Dress sur PS3. Il y a un simulateur de fashion victim, voilà.
Ouais,
en exclusivité sur PS3.
Voilà, exactement.
Une belle exclusion.
Mais rien de grandiose, très honnêtement. Plutôt la déception, quoi.
C'est vrai qu'on attendait un petit peu peut-être des Japonais d'avoir gardé plein de petites cartouches pour le TGS en jouant à domicile, et puis en fait, pas tant que ça.
Je crois que Nintendo a un peu tué aussi tout suspense avec sa conférence, là, donc
il
n'y a plus
grand-chose
du même acabit après à montrer, donc ça a peut-être joué, je ne sais pas. En tout cas, rien de très folichon.
Pour toi. Angel, ta vision des choses.
Plus grande annonce, c'est Quantum Theory. Mais de l'année. Hein.
Kiffe le nom.
Ouais, non, mais sinon, non, mais t'en viens de demander si les salons sont pas morts. Quoi. Enfin, si le principe même de la grande annonce au salon est mort. Mais parce que t'as l'impression qu'en fait, en termes de communication, la communication marche pas marche plus sur un gros coup, mais plein de petits coups comme ça se passait. Street Fighter 4 par exemple, c'est un super exemple. Street Fighter 4, ils annoncent personnage par personnage, quoi, photo par photo, et vidéo, et c'est super distillé, mais sur des mois et des mois.
Sur l'année, ouais.
Mais c'est parce que c'est ce qui marche le mieux, voilà.
Ouais. Internet,
il fait des kilomètres de coverage en fait, partout. Et puis...
En fait, est-ce qu'on aurait pris un bon défi en se mettant sur internet et créer un site qui s'appellerait Gameblog et qu'on est bleu ?
Non, on est à la bourre, mec, mais c'est pas grave.
Très bien, ok. Rassure-moi, Julo. Pendant que j'ai un chat qui passe dans ma gorge, ta vision, toi à toi.
De moi à moi.
Toi, mon toi.
Non, bah écoute, oui, je partage ce sentiment de tristesse face à ces salons qui ne nous font plus trop rêver.
Alors que tu portes un très beau sweat I Love Tokyo.
Tout à fait.
Tu me diras où tu l'as acheté, j'aime beaucoup.
Écoute, c'est un cadeau, donc je ne peux pas te le dire.
Merde, désolé. Tu peux me l'offrir
Peut-être, si tu es sage.
Ah, sympa.
Très, tu très rêves.
Donc, qu'est-ce que c'est que ce podcast? Au secours.
Non, et puis non, je retiens sinon d'une manière générale les progrès de Microsoft et de sa Xbox 360. Ouais. Quoi. Mm-hmm. Ça, c'est vraiment ce que je retiendrai de cette année.
Pour le Japon surtout.
Ouais, ouais, complètement.
Bah ouais, d'une manière générale en fait. Quoi.
Mais oui, mais moi je trouve aussi. Hein. Manière
parce
générale.
Que, je crois qu'ils ont juste mais grappillé mais énormément de terrain. Quoi. Ouais.
Ils ont vendu 8000 par semaine, c'est énorme.
Et ça, c'est un des trucs qui va peut-être nous faire réfléchir pour la génération suivante. Quoi. Et où est-ce qu'ils vont en être? Parce que franchement, ils vont quand même très vite et
ah bah,
ils assurent.
Ouais. Et justement, j'en viens à Suda. On parlait tout à l'heure de lui pour No More Heroes, etc. Son prochain jeu, il a envie de le faire sur Xbox 360 et sur PS3, je sais pas trop, machin. Alors, on sait à quel point Microsoft arrose pas mal les éditeurs pour avoir des noms, etc.
Bah, ça a l'air d'être efficace.
Mais voilà, au final, c'est efficace. Hein. Il y a beaucoup de jeux qui sortent sur 360 qui sont vraiment des très bons jeux et pas que des jeux de commande. Hein. C'était un peu le cas au début, à l'époque de la Xbox première du nom. Sur Xbox 360, la donne change un peu. On a vraiment des gros titres, on le voit. Hein. Star Ocean 4, Halo Recon, bon, bah, ça c'est un peu.
Ils se placent pas petit à petit, quoi. Ils se placent vraiment rapidement. Quoi.
Et puis on rappelle, hein, ce mois-ci, là, le mois de septembre, donc le mois dernier, hein, au Japon, ça a été la Xbox 360 a vendu plus que la PS3 sur un mois entier. C'est du jamais vu, mais jamais vu.
Jamais imaginé. Même.
Jamais imaginé, ouais.
Pour une console Microsoft tout court. Même.
Ah ouais, complètement.
Mais la PS3 en plus est particulièrement mal vendue parce que la 360, elle n'a pas fait des chiffres extraordinaires. Mm-hmm. Mais la PS3,
non,
c'est
on a vraiment
catastrophique.
Il y a un désamour maintenant avec la PS3, c'est ça qui est inquiétant.
Ah, on était à 6000 par semaine pour la PS3, 8000 pour l'autre. Enfin, ça reste des
trop compliqué. Trop...
Non, mais symboliquement, c'est très fort. Mais ouais, j'ai l'impression que là,
mais
la
c'est
PS3,
marrant
elle a
parce
vraiment
que...
décroché. Quoi.
Ouais. Je nous revois quelques années en arrière où on n'osait pas trop y croire quand on le disait, mais on le disait quand même. Jamais un constructeur n'a réussi sur plus de 2 générations. Ouais. On le disait, ouais, mais bon, on le disait, quoi, on l'a toujours dit, mais sans trop y croire.
Et, et puis la communication même générale de Sony est en train de changer. Hein. Vous l'avez vu, il y a quelques jours, on a publié une news du nouveau président des studios worldwide de Sony qui parle du Japon et qui dit pour la première fois, ouvertement, on espère que la Xbox 360 va marcher au Japon comme la PS3. Oh, ce qu'ils font avec les avatars, c'est vachement bien. Moi, je préfère ça. Je suis vachement plus dans leur position que ceux des Mi.
C'est vraiment bizarre ces déclarations.
Ouais, c'est le marché de la HD, Xbox, enfin Microsoft et Sony, qui sont en galère totale, en tout cas au Japon, et qui se doivent quelque part d'essayer d'avancer un peu de concert pour imposer la génération HD qui est en train de se faire mais exploser par Nintendo et sa Wii en termes de volume de vente. Hein, Raon.
Oui, c'est ça. S'ils se font botter les fesses, alors ils se disent qu'il va falloir qu'on se mette d'accord pour essayer de reprendre du terrain.
Alors que c'est les meilleurs ennemis du monde.
C'est ça qui est drôle. Oui, mais
ils sont sur le même marché. Ils sont sur le même marché. Mais en même temps, tout le monde a toujours eu un peu... peut-être plus chez Microsoft que chez Sony, mais tout le monde a toujours eu un peu un discours bisounours du « c'est le même marché, il faut qu'on le fasse grandir ensemble, on a tous notre place, et blablabla. »
En fait, comme si on n'était pas là.
Ouais, mais ça, c'est le discours de Microsoft. Là, pour la première fois, c'est le discours de Sony.
Oui.
C'est quand même assez révélateur. En tout cas, voilà, c'est ce qu'on pouvait dire pour ce podcast 71 sur le Tokyo Game Show 2008. Un bilan que vous avez vu contrasté. Néanmoins, on a parlé longuement. Hein. Ça veut dire qu'il y avait quand même pas mal de choses à voir.
Il y a quand même eu quelques annonces.
Quelques annonces. Il y a eu des jeux qui ont attiré notre attention. Hein. Et puis, il y a cette baffe, Celesto Cosmic, que je rappellerai. Resident Evil 5, dans tous les esprits, 13 mars 2009. Qu'est-ce qu'on l'attend? Qu'est-ce que ça va être bon? J'espère, j'ai hâte.
Et la grande absence d'Ico.
Du jeu de la Team Ico. Voilà, et il y a une autre chose auquel j'ai vraiment super hâte d'être, c'est à mercredi prochain pour un nouveau podcast de Gameblog encore plus incroyable et extraordinaire. Et ouais, et vous allez voir, ce sera un beau podcast d'ailleurs, puisque vous n'êtes pas sans savoir que la fin du mois s'annonce très 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 riche en blockbuster cosmique. On va revenir un petit peu dessus, que ce soit en test ou à l'oral, vous allez voir. On se donne rendez-vous la semaine prochaine avec pas mal de belles choses. D'ici là, jouez bien et surtout, portez-vous bien. Il y en a qui en ont besoin en ce moment. Bisous, ciao, ciao.
Salut,
ciao.
Bye.
Ciao.